C'est à moi là, faut que je coupe la musique. J'arrive, bande de beaux gosses, en train d'écrire à Paul, le rédacteur en chef de MVP. Prochain MVP la semaine prochaine. Et pas mercredi, jeudi, et pas le matin. L'après-midi, spécial média. Ça va être super sympa. Voilà. Dommage. Jeudi en 8. Oh non, arrêtez avec ça. C'est dommage que... Arrêtez avec le jeudi en 8. C'est dommage que... Que le site... C'est quoi le site ? Média en scène. Média en scène ne donne pas nos invités. Pas nos invités. Voilà. Choc, choc. Vous allez bien ? Pardon, excusez-moi, j'étais en train d'envoyer un message à Paul, qui est rédacteur en chef de MVP. Prochain rendez-vous jeudi prochain, ce sera vers 14h, 14h30, jeudi prochain, pas jeudi demain, jeudi en 8, comme disent les gens qui sont nés pendant la période paléolithique. Et ça va être super sympa, super invité, voilà. Ça va être chouette comme tout. Je vous en reparlerai. Mais réservez votre jeudi. Tu as réussi à braver les 15 cm de qui ? Ah, de neige ! Pour venir. Oui, bien sûr. Oui, prudence, hein, les amis. Oui, la neige. De retour à Paris. Mais pas qu'à Paris, je pense. Qui a de la neige ? Ouais. Ah, les enfants n'ont pas école aujourd'hui, mais je suis quand même allé à l'école des enfants ce matin. Il y avait un rendez-vous très sympathique avec la maîtresse du petit. Faire un petit point en milieu d'année. C'était cool comme tout. Voilà. Donc on a, voilà. Je suis en congé tout le mois de janvier. Ok, Aguero, j'espère que tout va bien. J'ai la chance de pouvoir suivre la matinée Étienne depuis cette semaine. Quel plaisir quotidien. Merci Aguero. Je vais encore plus m'appliquer du coup. 15 cm, c'est beaucoup. De neige, oui. Oui. En Belgique, plein de neige. Charente-Maritime, oui, neige. Quenelle dans le 22. J'ai vu que dans le 35, non ? Je sais pas, le Parisien, il disait que dans Bretagne, il y avait de la neige. Neige à Strasbourg, neige en Vendée, neige à Belfort, beaucoup de neige à Lille, neige à Rouen, tout blanc à Arras, pluie vague glaissante à Nantes ce matin, patinoire géante. Alors pour les régions qui ne sont pas habituées à la neige, on va dire notamment l'Ouest et puis Paris, c'est très drôle parce que les gens ne sont pas habitués, ne sont pas équipés. À Paris, les voitures n'ont pas de pneus neige, n'ont pas de pneus 4 saisons non plus. C'est très très drôle de voir les Parisiens rouler quand il neige, c'est très très drôle. Qui m'écrit là ? Ok, c'est les soldes. Comment ça, un train de hype ? Bon, ok, train de hype. Merci la Mimouzette pour le 52e mois d'abonnement. Merci pour la chaleur du Sud. Merci Lucky 13 pour le 12e mois. Merci Julio pour le 52e mois, ça fait beaucoup, hein ? Merci beaucoup. Qu'un centimètre, c'est énorme, ouais. Mons en Belgique, neige bien. On s'en plante plein la tronche, ok. Pas dans le sud, non. Pas à Lyon non plus. Ah, c'est vraiment moitié nord, alors. Montpellier, que du froid, ok. Ok. Sur Rennes, c'est beaucoup mieux aujourd'hui. Hier, c'était la cata. Il a replu là, il a reneigé ce matin sur Paris. C'est joli. Les enfants sont contents parce que comme ils n'ont pas école aujourd'hui, ça va aller faire des batailles de boules de neige. Tours, c'est bien enneigé. Donc c'est vraiment moitié nord alors. Hein. On s'enfonce bien dedans en tout cas. Ok. Ok. On parle toujours de neige. Hein. Ok. Merci Willow. Willow Wisp. Merci Culotte Courte. Pour le 38e mois. Merci Eden pour le 28e mois. Oui. Je vais acheter un truc sur la route de l'école. Salut Sarah. La perturbation est en train de descendre vers le sud. Ah, est-ce que nos amis du sud vont avoir le droit à la neige ? Du coup, il y a beaucoup de télétravail, non ? Est-ce que tu n'es le Puy du Fou ? Oui, de réputation, oui. Enfin, le spectacle, là, tout ça. Mais c'est tout. Télétravail, oui, il doit y avoir beaucoup de télétravail, non? Merci, 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 Chal Albert, pour le quatrième mois. Comment ça, Fabrica? Mission freelance? Ok, ok, c'est une bonne excuse. Téléglandouille? Je dis télétravail. Il y a Black Young qui dit téléglandouille, oui. Ah, il y a un sondage sur les 15 cm, c'était quoi ce sondage? C'est pas taille qui compte 60%, c'est grand 26%, c'est moyen 12%, c'est petit 3%. Ok, on a envie d'en savoir plus, les gens qu'on dit que 15% c'était petit. Hein. Vous êtes 3%, hein. Vous n'êtes pas beaucoup. Hein. On a envie que vous en disiez plus. En arrêt de travail. Ok, je cherche mon identifiant, force à toi. Force, 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 force. J'ai dû poser des congés étant aide ménagère, on prend une voiture personnelle, quel enfer. Courage à Manite. Rien à Toulouse. Salut Camille. Toi aussi, hein? Tu reviens à midi? Ok. Téléglandouille. Je m'en lasse pas. Téléflemme. Oh les gars, dites pas ça parce qu'après il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui réduisent le télétravail dans l'entreprise en disant ouais, j'étais sur le stream de Samuel Etienne, il y avait les gens qui étaient en télétravail, ça parlait de téléglandouille, téléflemme. On va arrêter, hein? Allez, faites pas ça, les gars. Hein. C'est comme ça qu'on réduit le télétravail en France. Hein. Et oui, mais oui, mais oui, parce que il y a aussi du chef d'entreprise dans cette communauté. Quoi. Ils écoutent, hein. Ils vous lisent, là. Hein. Bah ouais, bah ouais. Non, dites, ça bosse dur aujourd'hui. Oh là là. Oh, le télétravail, je suis fatigué, c'est épuisant, je donne tout, je vais vous dire ce qu'il faut dire. Je suis bien à 200% d'investissement et d'engagement en plus par rapport à l'habitude. Et puis j'ai une efficacité. C'est bien simple, en une journée, j'abats le travail d'une semaine. C'est ça qu'il faut dire, les gars. C'est ça qu'il faut dire, les gars. Vous êtes fous, quoi. Voilà, c'est parti. Steve, ma femme travaille mieux en étant en télétravail. Boum, voilà. Allez, allez-y. Voilà, le télétravail me permet de me donner à 2000% pour ma super entreprise. Merci, KiwiToMou. Voilà. Allez, allez. Alors, je cherche mon identifiant, on me l'a suspendu mon télétravail car soi-disant pas assez productive alors que j'étais hyper vigilante et que je faisais pas de pause sauf pour déjeuner, quelle bande de cons. Voilà, faut dire les termes, voilà, télétravail sans pause déjeuner du côté de Paloma. Voilà, je bosse deux fois plus en télétravail, dit Darsaliot. Je suis plus productif en TT, me dit Spixel, voilà. Sarah, en télétravail je peux bosser, rouler dans mon plaid, c'est ce que je demande. Non, 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 faut dire que c'est dur, faut dire que c'est dur. Ouais, en une semaine, j'avale le travail d'une journée. Non, Grac, non! Il s'est trompé. Non, non, l'inverse! L'inverse! Madame Gesmer, j'ai un pote qui fait du sexe pendant ses heures de télétravail. Non, mais non, non, c'est pas ça qu'il faut dire. Les gars, ils vont vous couper le télétravail. Hein. C'est vous qui l'aurez voulu. Hein. J'étais sur le stream de Samuel Etienne. Oh, bah, non, le télétravail. Hein. Merci, le giganto, pour le 53e mois. Non, vous avez rien compris, c'est pas ça qu'il faut dire. Ah, on peut débloquer une émoticône au hasard. Bah, je débloque, moi. Abonnez-vous. C'est quoi cette histoire? Je comprends rien. Vous êtes bête, hein? Voilà, entendre Samuel en télétravail booste ma productivité de 27,5%. Voilà. Voilà. Mais oui. Mais oui. Bon, force à vous si vous êtes en télétravail. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prudent. Ça glisse, ça glisse. Hein. Ça glisse. C'est pas Francky Vincent qui a fait une chanson là-dessus? Francky Vincent, ça me donne quelque chose. Francky. Il a bien dû chanter un truc là. Là-dessus, non? Alice, ça glisse? Ah ouais, j'en étais sûr. Alors ça, j'en étais sûr. Alice, ça glisse. Je m'attendais tellement pas aux gros.
Je sens tes groseilles.
Jusqu'à Alice, ça glisse. Au pays des merveilles, ça va. C'est, on est, c'est... Tu vois, mais alors, je sens tes groseilles. Pardon, excusez-moi, je suis désolé de vous infliger ça de bon matin, là. Ah oui.
Ah ouais.
Ok, d'accord. Ok, mais je savais bien que ça me disait quelque chose. Ah, les groseilles. Je sens tes groseilles. T'es pas parti aux obsèques de Bardot? Non, ça va. Non. Ah! Bon, pourquoi avoir coupé ce chef-d'œuvre de la culture française? Parce qu'il faut savoir gérer la frustration, parce qu'il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ne pas tout donner, il faut savoir se retenir. C'est ce qu'on a fait. Merci Idali pour le 42e mois, ce très gentil message. Merci Jornil, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce soutien. Merci encore à Giganto. Je sens tes groseilles. Je viens de lire le reste des lyrics, c'est pire après. Après, Savon de Marseille, ça va, ça, non? Non.
Non, je suis
non, ça, y a rien qui va.
Quoi?
Quoi, c'est pas. Je connaissais pas. Mais c'est trop. Ouf. Ah, ça fait du bien parce qu'après on part sur le Venezuela, on part sur des choses un peu sérieuses là, donc ça fait du bien. Mais waouh. Ah ouais, c'est. Ah ouais, vous... non, je peux pas. Non, après, où Dieu sait où cela va nous mener. Hein. Ouh. Ok, d'accord. Ok. C'est vrai qu'on est devenu très chaste aujourd'hui. Mais bon, ouais. Si tu vous appréciez le style, je vous conseille le chef-d'œuvre intitulé Tu pues du cul. Tu pues du cul. C'est une chanson de Francky Vincent. Putain. Alors, la chanson, c'est Tu pues du cul, choum. Je ne veux même pas savoir ce qui se cache derrière cette chanson. Non. Voilà. C'est là où on voit que cette chaîne est tenue. Il y a un cadre. Hein? Il y a un cadre. Il faudra laisser cette séquence dans la version podcast. Ah oui, c'est vrai que. Ah oui, du coup, c'est pas dans la version podcast. Eh oui. Point d'exclamation podcast dans le chat. On est très heureux de vivre ça parce que c'est la folie. Hein. Depuis septembre, on met cette revue de presse en podcast sur toutes les plateformes de podcast à partir de 15-16 heures. C'est Vincent qui s'en occupe. Mais en général, on commence quand on débute le sommaire. Il n'y a pas l'intro avant. Parce que c'est une promesse d'actu, quoi. Donc, tu vois, eux, ils n'ont pas Francky Vincent. Mais en même temps, c'est bien. Ça veut dire que sur Twitch, vous avez des bonus. Vous avez d'autres choses. Voilà. Et en podcast, ça commence au sommaire. C'est quoi la nouvelle déco, j'ai loupé? C'est littéralement la même depuis 5 ans. De quoi parles-tu? Quelle nouvelle déco? Justement, le problème, c'est que la déco ne change pas ici. C'est bien le souci, d'ailleurs. Ça pue moins du cul que la situation géopolitique mondiale. Des carons, t'as raison, en vrai. T'as raison. On a perdu Sarah et Étienne à la modération, dit El Giganto. Oh, ça fait un moment, ça. C'est quoi la nouvelle? C'est comme la nouvelle déco, hein. C'est pas très nouveau, hein. Mais ça, c'est en toute bienveillance, on est très heureux de cette ambiance. Hein. Hein, on est ça, mais ça, c'est notre petit divertissement à nous. Hein. Ils ont fait quoi les modos pour être virés? Mais personne n'a été viré chez Ronex. Mais vous avez bu ou quoi certains là ce matin? Qu'est-ce qu'ils racontent? Chez Ronex, c'est quoi? C'est salut pantoufle. Ah mais c'est un appareil photo? Putain, la balle perdue de pantoufle, mon ami pantoufle dans le chat. Un bon investissement sur un appareil photo pour ta cam, t'es en webcam. T'es fou, c'est un boîtier Sony qui m'a coûté la peau duc. Mais vas-y, dis que j'ai une gueule de merde. Dis-le que l'image est cramée. Comment ça, Sugar? La qualité est pas folle? Mais pourtant, c'est un boîtier Sony directement lié au PC. Les gars. C'est flou. C'est vous qui êtes flou. Comment ça on peut compter les pixels? Vous êtes des malades ou quoi? Ah bon? C'est pas ultra net? Bah si, c'est net. Oh si, c'est bien. C'est Twitch ça, c'est Twitch. Nickel chez moi, me dit KLVN. Plus de lumière? Ah oui, non, mais après, ça me pique les yeux. Ah! Et Sam, j'ai beaucoup aimé ton live du samedi avec des articles différents et positifs. C'est nouveau, point d'exclamation, samedi dans le chat. On a commencé ça samedi dernier. Depuis samedi, on propose le samedi. Pantouf, je sais pas si t'étais au courant. Non, Sarah, point d'exclamation dimanche. Vous voyez, ça fait longtemps que ça a commencé avec Sarah. Hein. Mais bon, ça fait partie du spectacle. Point d'exclamation samedi. Le samedi, désormais, depuis samedi dernier, on a une revue de presse des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que comme je vous tartine depuis 5 ans tous les matins avec les mauvaises nouvelles, eh ben le samedi maintenant, c'est bonnes nouvelles. Donc je vous mets de côté les bonnes nouvelles toute la semaine. Et puis je vous en parle samedi, on a fait... Ça s'appelle... Attends, comment ça s'appelle? C'est vous qui avez trouvé le nom. Ouais, il y avait ce concept à la télé pour tout, il y a quelques années sur Canal+, ça avait été un bide absolu, personne ne voulait des bonnes nouvelles. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais le relancer. Ah oui, samedi, des bonnes nouvelles. Samedi, des bonnes nouvelles. Voilà. Samedi, les bonnes nouvelles. Ah, avec l'article, tu préférais le samedi, des bonnes nouvelles. Ouais. Bon, ce serait que le samedi, oui. Alors j'ai un problème, c'est qu'on est mercredi, et j'en ai que deux des bonnes nouvelles pour l'instant, je les ai trouvées lundi, donc j'en ai pas trouvé hier, j'en ai pas trouvé aujourd'hui. Ok. Voilà. Non mais tu vois, des initiatives positives, des trucs d'ONG, des avancées scientifiques, des avancées médicales, des trucs sympas, des trucs qui... Voilà. Voilà, donc là j'en ai... Pour l'instant, la hotte n'est pas pleine, hein. Ouais. Sam, je suis à la salle, tu peux me motiver. Salut Brassine, bah pas là, hein, parce que moi je suis en mode. Ça fait du gras ici, hein, ça fait du bedou. Hein. Hein, vivement le nouveau studio de stream, je sais pas, c'est pas pour tout de suite. Je vais vous mettre un tapis pour courir, je vous ferai des streams. On en a parlé hier en live. Hier après-midi, on faisait du valo hier après-midi. Et je mettrai un tapis de course. Non, les étagères, on s'en fout. C'est pour Joe ça. Non, priorité, tapis de course. On mettra la caméra et tout, je vous ferai des petits stream footing l'après-midi. Ça me motivera un peu. Parce que là, c'est. Je ne vois plus mes pieds. Hein. Ouais, donc je ne veux pas te motiver pour la salle. Et on pourra choisir la vitesse. Bien sûr. J'ai 95 ans, bien sûr. Vous allez mettre du 15 km/h, je vais m'éclater la gueule, j'aurai plus de dents. Voilà. Déjà que je suis flou avec ma caméra de merde. Super. Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr, vous allez choisir la vitesse. Tant donné moi de la vitesse. Ce serait tellement drôle, changer la vitesse avec les points de chaîne. Ah bah oui, ça va être drôle, ouais. Bien sûr. Et quoi encore? Et quoi encore? Bah pas non. Mais les gens qui font du sexe pendant le télétravail, ce serait pas une bonne nouvelle? Ah bah il faut que j'ai un article. J'ai pas l'article, et pas non. Pourquoi tu prends pas un tapis de marche en même temps que stream l'actu? Ouais. Non, mais moi j'aime mieux courir, ouais. Je suis bien là, assis dans ma chaise, là, le matin. Il m'en faut l'énergie pour vous gérer, hein. Samuel, pourquoi tu ne portes pas 3 viewers pendant que tu fais l'actu? Ah! Putain, je comprenais pas la phrase. Porter comme ça, dans mes bras? Ah bah ouais, c'est pas con ça. Pour avoir des gros bras. C'est pas con ça. Pas con en vrai. Un retour de la foule Étienne n'est pas prévu? Bah. Vu les températures, pas tout de suite, non? Hein? Ça va. Vous avez vu la météo là? Non, non, non. Moi, plus je vieillis, moi j'aime le froid. Hein. Vous avez les petits vieux. Je crois qu'en vieillissant, tu aimes le chaud, quoi. Oh là là, l'humidité, le froid. Ah, moi j'aime le chaud, moi. Ah non, non, maintenant je veux du chaud, moi. Sam, avec ce pull, on dirait que t'es gigastock. Ouais, je suis gigastock de là, moi. Je suis stock, mais de là, moi. Water Leicester, je t'envoie plein de force. Des bisous. Ta sensibilité au froid n'est plus la même avec l'âge. Ah bah oui. Ah bah oui. Un abdal de dieu grec. Ah bah c'est le mot. Je n'ai pas des abdos. Moi j'ai un abdal, un gros abdal. Comme ça. Un seul. Eh ben dis donc. Je peux te dire que les dragons là, ils font du grain. Hein. Alors, c'est le côté pratique, c'est que moi j'ai des tatouages, bon, je suis assez tatoué sur le corps. Du coup, j'ai des plus gros dragons qu'avant, quoi. Pour le même prix. Et sans piquer. Ils sont plus costauds. Tu m'étonnes. J'ai des gros dragons maintenant. Plus gros, quoi. Surtout ceux qui sont par le ventre, là. C'est pas. Il y en a, c'est pas de la tablette au chocolat, c'est plutôt de la mousse au chocolat. Ouais, bah, moi, c'est ça, moi. Ouais, c'est pas. Je suis pas fier du body, là. C'est pas foufou, hein. Les dragons volent plus. Ah, ben, ils sont au sol, hein. Je peux te dire que ça n'arrive plus à décoller, là. Trop beau ton thermos. Ah, c'est pas un thermos, c'est un café que j'ai pris sur la route. Dans le quartier. Dans le Tiécart. Sur la route. Oh, j'étais à l'école des enfants ce matin. Salut Biscotte. On s'en fout du corps, c'est l'esprit qui compte. Ouais. Ouais, j'aimerais bien voir les deux quand même. On te voit quand sur Street Fighter? Street Fighter qui sera à la Zilane, histoire d'anticiper un peu ton training, me dit Pantoufle. Street Fighter. Quoi, il y a une actu autour de Street Fighter? Il y a un nouveau Street Fighter? Il y a un nouveau Street Factor? Des mecs qui s'envoient des lettres à la gueule? Et des sacoches de. Et des vélos. C'est quoi l'actu sur Street Factor? Il y a Eden qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. Merci Eden, tu régales, merci de ton soutien. C'est grâce à toi que je suis là. Merci Mini Moonster. Merci Zevdi, merci, vous êtes encore. Merci Idali. C'est quoi l'actu sur Street Factor en vrai? En vrai, en vrai, en vrai. En vrai, il y a une actu? Il y a un nouveau jeu, il y a quoi? Le jeu sera à la Zilane? Ils sortent un DLC avec DHL? Hein, quoi? DHL, le philosophe? Aucune actu, mais étant donné qu'il sera à la Zilane, pas mal de gens s'y mettent. Ah, c'est pour ça! T'as des mecs qui commencent l'entraînement de la Zilane maintenant! Oh là là, non, je sais même pas si je la ferai, moi, là. La troisième Zilane, là. Ok. Et ça se trouve, c'est mon jeu, ça se trouve, je serais bon, hein. Il y a un event avec étoile. Non, j'ai pas dit que je serais pas à la Zilane. Je vais faire comme les deux dernières fois. Je vais regarder la conférence en live de Zerator avec ses PowerPoint magnifiques pour annoncer les jeux de la Zilane. Voilà. Il y en aura deux ou trois qui vont nous hyper. Il y en a sept où on va se dire, ah là, c'est quoi ces merdes de jeu? Et puis on verra, on décidera, on décidera. Coucou Samuel, pour 1 000 euros par mois, est-ce que tu remets le stream TikTok? Question sérieuse. Non, c'est pas une question d'argent. J'ai pas trouvé ça concluant, j'ai pas trouvé l'interface de TikTok bien pensée pour le live. L'outil est pas top. L'outil est pas top. L'outil ne permet pas de bien mettre en avant les journaux, ne permet pas de bien mettre en avant le chat. L'outil est pas top. Et le fait d'avoir deux chats fait que tu exclus l'une communauté ou l'autre communauté selon les messages que tu lis. Tu lis des messages sur TikTok que les gens de Twitch ne voient pas. Tu lis des messages sur Twitch que les gens de TikTok ne voient pas. J'ai essayé plusieurs mois, comme vous l'avez vu. C'était pas naze, il y avait du monde en plus, hein. Mais je ne suis pas convaincu. Et YouTube, peut-être que je ferai un essai YouTube. Peut-être que je ferai un essai YouTube. Mais non, TikTok, je ne reviendrai pas sur le live. C'est un super outil TikTok, mais pas pour le live. Ouais. Et la modération est moins facile à faire aussi. Salut Stani. Force à toi pour le. Ouais. Un agrégateur de chat réglerait le problème. Ouais. Ouais, mais bon, en vrai, je trouve que la vraie bonne plateforme du live, c'est Twitch, de très loin. D'ailleurs, je crois que c'est pas autorisé l'agrégateur de live, ouais. Sugar a raison. Tu bois 2 litres d'eau par jour? Alors, si tu comptes l'eau qu'il y a dans mon café, oui. Sinon, non. Et dans la vodka, il y a de l'eau? Attends, dans la vodka, il y a de l'eau ou pas? Enfin bon, si tu comptes l'eau du café, oui. Donc, non, non, TikTok, c'est un très bon outil, hein, pour. Tu peux faire des chouettes trucs avec TikTok. Mais pas pour le live, non. Voilà. Après, peut-être que, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être qu'il faudrait essayer aussi de streamer aussi sur YouTube pour essayer ça. Moi, j'aime bien les expérimentations. Hein. J'ai toujours aimé. Moi, j'aime expérimenter. Vous connaissez ma curiosité légendaire. Hein. Vraie question, le café, ça hydrate? Non, Pantouf, ça déshydrate le café. En plus. Putain, 3K viewers, t'es chaud. C'est vous qui êtes chaud déjà. Et puis, j'ai pas trop chaud, moi, je suis plutôt froid en ce moment. Ça hydrate le café juste moins que l'eau. Moi, j'ai toujours lu que le café, ça déshydratait. Tu peux essayer Kick sinon. C'est prévu, c'est prévu. Je suis en train de développer un nouveau programme. Un nouveau programme un peu olé olé, dont je sais qu'il ne pourrait pas passer les fourches caudines de la modération sur Twitch. Et donc, effectivement, j'ai un projet pour Kick. Merci, Zé. Attends. Merci Zelda, merci Zelda. J'espère que c'est pas trop compliqué quand même. Ah, le café déshydrate, oui. Le thé et le café déshydrate. Bon, il y a un débat sur la déshydratation du café. Comment ça, olé olé? Non, pas, oh, pas café olé, hein. Oui, je suis d'accord avec toi, Marceau. Bon, on va y aller parce que la demi-heure d'introduction est passée. Moi, il n'y aurait que moi, mais je ne suis pas tout seul. Je ne ferai que d'introduction sur Twitch. C'est-à-dire que je ferai des lives d'introduction. Je ferai 3 heures d'introduction et je dirais merci les gars. Merci, donc voilà, fin du live. J'adore, moi. C'est ce que je préfère sur Twitch, c'est l'introduction. Les préliminaires, en fait. C'est ce que je préfère. Mais bon, après, il faut bien faire donc après, je fais des trucs, mais il n'y aurait que moi, je ferai que la discussion avec vous, quoi. Donc là, on va devoir y aller, hein. Lancer un Just Chatting l'après-midi. Alors, le projet qu'il y aura parmi les projets ici, c'est quand j'aurai déménagé, parce que là, je crois que c'est pas possible dans ce studio qui est trop petit. Dans mon prochain studio, si j'ai la place, je ferai un setup avec un tapis de course et je vous ferai des just chatting de temps en temps l'après-midi en running, torse poil, tout dragon dehors. Voilà. Avec, je me mettrai de l'huile. Hein? Certains se plaignent de la qualité de l'image. On mettra des belles lumières. Je mettrai de l'huile. Voilà. Ça sera un beau spectacle. Oh my god, tu vas relancer la natalité en France? Non, parce que je peux pas. Non. Merci Corgan, merci Roi Pastèque, merci Zeldam, vous êtes incroyable, vous êtes fou. Ça passera pas sur Twitch. Si, t'as le droit. Alors, t'as le droit. Moi, j'ai déjà streamé Tout est ton dehors hein, sur Twitch. Ça passe sans problème. Hein. Rappelez-vous, au The Event, quand je me suis fait tatouer en live, j'étais quasiment tout nu. Hein. Peccable. Hein. Bah, pourquoi alors? Salut de cette scène. Salut, Babar. Babar au Rhum, si c'est pas du pseudo, ça. Waouh, moi qui regarde la revue de presse en faisant du vélo d'appartement tous les matins, j'aurais l'impression d'un retour d'ascenseur. Mais bien sûr. Ah, c'est pas mal. La qualité de l'image est bonne, mais je pense qu'il te faut un objectif à plus courte focale pour l'effet waouh, genre un 16 mm comme moi. Là, c'est un... Là, c'est... Tu vois, c'est un... Ah ouais. Ah ouais. Parce que là, en fait, c'est un... j'ai un zoom, là, c'est un 16-50. Là, je suis en 16, là. Je prends une focale courte, mais ça coûte des sous, ça, non? C'est bien la focale fixe? Ah, pour le flou d'arrière-plan. Ah ouais. D'accord, ok. Je vais m'enseigner. Ok, le beau gosse. Merci le mec chill. Bon allez, on va bosser. Vous êtes prêts les beaux gosses? Voilà le sommaire déjà. Est-ce que ça vous dit de commencer? Les chouchous. On y va, vous êtes 3000, on a fait... Eh, hey, quel bonheur. Vous êtes 3000, on a fait le bonjour, qu'on a fait l'intro. Vous êtes des monstres. Après j'ai un après-midi de psychopathe. 14h, Teams. 15h, Teams. 16h, Teams. 17h, Teams. Et j'attends éventuellement un Teams à 18h. Putain, voilà l'après-midi. Quoi. Là, vous êtes mon repos. Hein. 18h, ça vient de se caler. Ouais. Teams. Voilà. À l'instant, je vérifiais justement, mais je l'ai mon 18h Teams. Allez, c'est parti, on note. C'est moi qui fais la sélection des journaux et des articles, ouais. C'est très artisanal ici, je fais tout. Non, pas un Teams avec Hélène, hélas. 19h. Attends, 18h, j'avais quelque chose, non? Non, c'est 18h, j'ai dit. Ah oui, 18h. 18h. Mutuel, ok. Voilà. Hop. Je vais répondre que c'est ok. 14h Teams. 15h Teams. 16h Teams. 17h Teams. 18h Teams. 5 réunions, 5 rendez-vous quoi. Pop, 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 pop. Ça bosse hein. Salut Noctali. C'était cool de jouer avec vous tous hier. C'était bien cool. Ça m'a fait du bien. J'ai voulu streamer hier soir, mais pouh, je crevais. Alors attends. Five stack. Excellent. C'est quoi ça? Ah, il était temps, ouais. Alors attends, oui. J'ai un rendez-vous. Ok. Excusez-moi, je suis en train de lire mes mails pro. Hein. Je vis ma belle vie, moi. D'accord, ok. J'ai un mail de l'équipe qui gère les podcasts. J'ai un mail. Je vais vous faire un stream sur le Figaro bientôt. Comment ça, je sens tes petites groseilles? Mais attends, Sarah, c'est pas parce que je lis mes mails que je vois pas le chat, hein? Vous savez que ça, c'est un de mes super pouvoirs, ça? Comment ça, je sens tes petites groseilles? C'est pas parce que je lis mes mails. Ça en profite parce que je suis sur mes mails pour écrire des dingueries dans le chat, mais je vous lis, hein. C'est fou, ça. C'est pas parce que je suis là que je suis pas là, hein. Je vois tes petites groseilles. Donc, je remercie. Merci beaucoup. À tout à l'heure. que vous m'envoyez un lien Teams, ou préférez-vous que nous nous appelions? Je surveille le chat, hein. C'est du savon de Marseille, je t'ai vu. Désolé, hein, je fais ma petite tambouille. Hein. Bonne journée, Samuel. 5 Teams. J'appelle ça des Teams, mais bon, c'est des réunions, quoi. Ok. Et alors, est-ce que j'avais... Martino, hop. Ouais. Voilà. Bon, bah, c'est bon, allez, c'est bon. Mon après-midi est full. Attends, est-ce que je l'ai bien envoyé? Parce que parfois je ferme l'ordinateur et c'est pas parti. Puis après, les gens disent, ah bah, tu donnes pas de nouvelles. Bah oui, mais oui, parce que je suis vieux aussi. Tous les envoyés. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, point d'interrogation. Le vieux, le schnock. Le mec, je lui dis merci beaucoup, je confirme le rendez-vous, je mets tout à l'heure point d'interrogation. Qui est con? C'est moi, ça. C'est moi. Ah. Allez, c'est parti, on bosse. Ok? Let's go? Tiens, je remonte le chat pour vous être sûr qu'il y a eu des dingueries dedans pendant que j'étais en train de travailler. Ok, bon, vous êtes mon petit repos de ce matin, parce qu'après ça va bosser. Hein. Ça bosse tout l'après-midi, là. Ok? Allez, let's go. Tiens, je vais vous mettre plus de lumière, parce que ça crie, ça dit qu'il n'y a pas assez de lumière. À l'heure, là. Bah, je suis à fond, là. Parce que c'est Zera qui m'a appris ça. Avant, j'avais une belle lumière, mais j'avais une belle lumière dans mes yeux. Et ça fait 30 ans que je me prends de la belle lumière dans les yeux, moi. Et donc, du coup, je voyais plus rien à la fin. Avec mes yeux là, je commençais à plus voir, à rien voir du tout. Et c'est Zera qui était venue une fois ici, il m'a dit bah, toi, pourquoi tu mets les lumières dans tes yeux? Bah je dis bah je sais pas. Il m'a dit mets-les plutôt en indirect vers le plafond, tout ça. Alors ça fait une moins jolie lumière, mais bah depuis je vois de nouveau, c'est plutôt bien en vrai. Merci Torps pour MVP. On a un MVP la semaine prochaine, jeudi après-midi, spécial métier des médias, journalisme, tout ça. Point d'exclamation MVP. Depuis, il joue mieux. Non, toujours pas. Ouais. Ouais, hélas. C'est trop tôt pour la lumière. Samuel ne la suit pas. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ok. Bonjour à tous. Bienvenue dans la matinée Étienne. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, 9h-12h. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt 10h-13h, voire même 11h-14h. Je suis désolé. Je suis confus. Je suis passé à l'école des enfants ce matin. Donc, la matinée Étienne, on lit les journaux ensemble, on passe en revue l'actualité, voilà. Et c'est en replay tout de suite sur Twitch pour les abonnés, c'est en replay sur YouTube le lendemain, et c'est en replay en podcast audio tous les jours désormais depuis la rentrée, et vous êtes super nombreux à nous écouter, et on est super contents, sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, en fait sur toutes les plateformes de podcast. Et ça, c'est Vincent qui nous poste ça à partir de 15h-16h. On commence par quoi? Par le sommaire, comme d'habitude. Comme ça, en quelques minutes, pour ceux qui ne peuvent pas rester 2 ou 3 heures avec nous, vous avez l'essentiel de l'actualité. Très bonne question de Moutos. Alors, Trump a envahi quel pays ce matin? Eh bien, je vais vous raconter tout ça. Alors, on va commencer par le Venezuela, effectivement. Je vous ai fait une spéciale Venezuela dimanche matin. On a beaucoup parlé lundi, on a beaucoup parlé mardi. On en reparle encore aujourd'hui. Ça me semble une info hyper importante. Il y a un article dans Les Échos qui est vraiment hyper important. Intéressant, j'avais envie de dire passionnant, qui explique qu'au Venezuela, rien ne change. C'est toujours le même pouvoir. C'est toujours le même pouvoir, c'est toujours les mêmes gens. Le président n'est plus là, mais c'est toujours le même régime, hein, autoritaire, qui est aux commandes. Et il n'est pas sûr que ça change. Le régime chaviste, donc de Hugo Chavez, hein, a repris la main après l'exfiltration de Nicolas Maduro. La Maison-Blanche n'est pas du tout impatiente de voir la chef de l'opposition arriver au pouvoir. Tiens donc, l'intervention militaire décidée par Trump ne viserait donc pas à rétablir un régime démocratique au Venezuela? En même temps, il n'a jamais dit que c'était pour ça, hein, puisqu'il a clairement lui-même dit que c'était pour d'autres raisons, et notamment... le pétrole. Donc en même temps, pourquoi faire de l'ironie? Puisque lui-même, de toute façon, l'a dit. Donc on lira ce papier dans Les Échos qui est très intéressant. On va pas non plus enjoliver la figure de Nicolás Maduro, hein, qui est un personnage peu recommandable. Et justement, il y a un portrait dans Le Monde qui est très bien fait de Nicolás Maduro, de son parcours, de son régime, hein, ce qui n'enlève rien au côté totalement hors la loi et hors du droit international de l'intervention américaine. Mais il ne s'agit pas non plus de raconter n'importe quoi. Donc Nicolás Maduro, l'héritier failli de la révolution bolivarienne, ça on va en parler aussi dans Le Monde, parce que finalement on n'a pas tellement parlé de Nicolás Maduro depuis le week-end dernier. Alors la suite, quelqu'un me demandait tout à l'heure dans le chat, l'info c'est quel pays a-t-il envahi ce matin ? Très bonne question. Alors vous savez qu'on parle beaucoup du Groenland, notamment. Les vues de Trump sur le Groenland agitent l'Europe, ça c'est un dossier dans La Croix. Comment concrètement les États-Unis pourraient s'emparer du Groenland ? C'est un papier dans Le Parisien, voilà, avec ce que pourraient faire les États-Unis, ce que pourrait faire l'Union européenne justement pour s'en protéger. Voilà. Donc vous voyez que on a un édito du Monde sur la question. Hein, le Groenland est et doit rester européen. Vous avez vu que sur la question de Trump, Venezuela, Groenland, ce matin, on lira La Croix, Le Monde, Le Parisien, Les Échos. L'idée ici, c'est que parfois je choisis plusieurs journaux, plusieurs articles, plusieurs angles pour avoir l'information la plus complète possible. À l'international, il y a autre chose dont il faut absolument parler aussi et dont je vous parlerai ce matin, c'est la répression qui s'abat sur les manifestants en Iran. Nouveau, parce que ce n'est pas la première fois, nouveau soulèvement populaire en Iran, hein, contre la vie chère, contre l'inflation délirante, mais aussi contre le pouvoir des mollahs, et de nouveau une répression sanglante. La répression s'intensifie au dixième jour d'un mouvement de contestation né de l'hyperinflation, et la mobilisation s'étend. La Croix en fait sa une, même ce matin. Il y a plusieurs pages d'articles. Il y a un bon article, je trouve, dans le Figaro. Je vous lirai ça tout à l'heure. International toujours, mais un peu France aussi. Je pense que vous avez entendu parler de ces hackers qui ont attaqué notamment la poste, notre poste, le truc qui envoyait des lettres avant, en France, hein, il y a quelques temps. Il y a une enquête de l'UMA que je trouve vraiment intéressante. Autant escrocs qu'espions, c'est pirates russes. Tiens donc, peuvent travailler le jour pour les renseignements militaires et passer leur nuit à racketter ou saboter des collectivités ou des entreprises, comme c'est arrivé à la Poste en cette fin d'année. Qui sont les hackers du groupe No Name 057? On se penchera sur ce article de l'Humanité que je trouve très intéressant et qui notamment se penche sur les liens entre le pouvoir russe et ses hackers. Et c'est vraiment passionnant. Ok. C'est incroyable. Alors je reçois un mail sur une... Ok, c'est un truc... C'est intéressant. Ok. Voilà, donc on se penchera là-dessus avec l'UMA. Merci l'UMA pour ce papier. J'avais pas vu beaucoup d'articles sur le sujet. Alors... Un peu de conseils pratiques ici, parce que ça glisse. Hein. Amis qui nous écoutez en podcast audio, vous n'avez pas eu cette séquence d'introduction. Je fais des longues introductions avant, mais je vous en protège. On a chanté à tue-tête du Francky Vincent tout à l'heure, du Alice, ça glisse, etc. Ça paraît de groseille. Enfin bon, je vous passe les détails. Vous êtes protégés, vous, de ça. Vous n'avez que, quand ça commence, le sommaire, l'actu. Vous n'avez pas eu le Francky Vincent. Il faut revenir sur Twitch, tout ça. Et donc, ça glisse, effectivement, en France. Ça glisse parce qu'il y a du verglas, il y a de la neige. Et... Le Parisien, qui a un journal un peu, qui a un journal pratique, qui a un journal un petit peu, qui essaie d'être un journal dans le concret de la vie quotidienne, bah donne des conseils pour pas se casser la gueule. Voilà. Comment ne pas te casser la margoulette et te péter le coccyx ou le poignet ou que sais-je en ce moment. Eh bien, voilà, il y a même un dessin. Il faut faire le pingouin. Il faut faire le pingouin. Il faut marcher comme ça. Il faut marcher un petit peu. Voilà. C'est pas un peu le dos arrondi, un peu penché, les genoux fléchis. Voilà, les bras écartés, voilà, c'est très très drôle. C'est très amusant, le truc est hyper sympa. Voilà. Ou alors faire le rouler-bouler façon judo. Si vous tombez, il faut faire un rouler-bouler. Voilà. Alors le Parisien dit, le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui savent pas, qui font pas de judo, quoi. C'est hyper mignon, vous allez voir. Voilà. Moi je marche un peu comme ça en plus, mais au quotidien, je veux dire. C'est un peu ma de toute façon mon flow, quoi, je dirais. Bon, on va se pencher sur ça, c'est plutôt important. Et puis on finira avec du plus léger, parce que c'est mercredi. Et mercredi, c'est quoi le mercredi? Le mercredi c'est cinéma. Merci. Encore un headshot de Sugar Frog. Bim. Le mec était au fond du B là. Hein, il attendait en défense. Voilà, il avait mis sa vandale. Il avait positionné son aim et tout, mais il s'est pris un petit coup de paix direct. Exactement, c'était ça. Voilà. Alors, si vous ne connaissez pas Valorant, vous n'avez pas compris un traître mot de ce que je viens de dire. Et c'est normal. C'est du langage crypté d'initié. Voilà. Et donc le mercredi, c'est cinéma. Il y a deux films. Qui ont un petit peu les honneurs de la presse ce matin. Il y a beaucoup d'articles dithyrambiques. Le premier qui dit tyrambique dans le chat, il est bandef. Et donc il y a un nouveau film de Jim Jarmusch, qui est un grand comédien et un grand réalisateur américain, qui s'appelle Father, Mother, Sister, Brother. Bon, moi j'aurais appelé ça Family pour faire plus simple. Mais c'est Lion d'or à Venise quand même. Voilà. Donc globalement, la presse trouve que le film est intéressant. Et puis, il y a un deuxième film français qui s'appelle Ma Frère. Ma Frère. Voilà, voilà, voilà. Enfin, un peu de liberté, de licence avec la langue française. Ma Frère, c'est... donc là, Lacroix dit L'échappée belle des gamins de la cité. Je crois que c'est un film sur des enfants. Et il paraît que c'est assez chou. Voilà. Je vous vois, les gens qui écrivent tyrambique dans le chat, parce que j'ai dit tyrambique. Ok. Je vous vois, hein. Vous croyez que je vous vois pas? Voilà. Donc un peu de cinéma à la fin pour changer un peu les idées, parce que vu l'actu, hein, ça fait du bien. Hein, qu'est-ce qu'il dit, l'ami Diesel? Ça y est, on fait des fautes de français dans les titres. La France va mal. Eh, ça, on n'est pas sur CNews, hein. Calmons-nous, hein. Non, défécateur, rien de passionnant là-dessus, enfin rien de bien écrit, bien chiant les articles sur le sujet, je vous ai rien mis là-dessus. Peut-être demain, peut-être, hein. Voilà. Ok. Petit point, on dit chiffré et pas crypté, la confusion est souvent faite. Pff, qu'est-ce que j'en sais, moi. Merci, hein. Merci. Bon, qu'est-ce que vous pensez de mon petit sommaire, là? Pas très mal, c'est pas si mal. Rien sur Charlie Hebdo, c'est quoi l'actu sur Charlie Hebdo? Chacun vient avec sa petite actu, hein. Il y a l'actu que moi je... Mais c'est bien, hein, on fait communauté. C'est quoi l'actu sur Charlie Hebdo? Il y a une actu là aujourd'hui sur Charlie Hebdo? Parce que j'ai pas vu un seul papier là-dessus. Raconte, vas-y. Raconte-moi, Molière de Twitch. C'est l'anniversaire? Ah bah y a rien. C'était il y a 11 ans tout pile. Pas un article. Ça, en vrai, ça aurait pu, ouais. Peut-être demain. On y va? Allez, c'est parti. Let's go. Les amis, merci d'être avec nous, d'être avec moi ce matin. C'est une nouvelle matinée, Étienne. Ça fait 5 ans qu'on fait ça. Sauf que depuis le mois de juin, c'est vraiment tous les jours du lundi au vendredi. Et même qu'on en fait le samedi, la revue de presse des bonnes nouvelles. Et même qu'on en fait même parfois le dimanche maintenant, le matin. On a fait une spéciale Venezuela dimanche dernier. Et peut-être même qu'on en fera une dimanche. Enfin voilà, on est accro à l'actu. On en parle. En essayant de ne pas désespérer, malgré tout, de la marche du monde. Alors, on va éventuellement de commencer par Trump. Petite actualité, le président américain en ce moment, il fait un petit peu parler de lui. On a un article dans les Échos que je trouve vraiment très intéressant, qui fait un petit peu avancer le schmilblick sur ce qui se passe réellement au Venezuela et sur les vraies motivations de M. Trump. Dans les Échos, donc, à Caracas, les chavistes continuent de tout verrouiller. Pour l'instant, rien ne change au Venezuela. Tout ça pourquoi? Tout ça pour le business, tout ça pour le pétrole. Mais pour les Vénézuéliens, qu'est-ce qui change? Bah aujourd'hui, a priori, nous raconte les Échos, rien. Le régime chaviste a repris la main. Après l'exfiltration de Nicolas Maduro, la Maison-Blanche n'est pas du tout impatiente de voir la chef de l'opposition arriver au pouvoir. La chef de l'opposition vénézuélienne, qui est le prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, a affirmé lundi soir qu'elle prévoyait de revenir le plus vite possible dans son pays, parce que vous savez qu'elle s'est exilée. Il serait alors prudent qu'elle y reste dans la clandestinité, estiment les Échos. En effet, rien n'indique qu'un début de transition démocratique n'ait été enclenché au Venezuela, où la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, a prêté serment lundi soir. Je crois que c'était la vice-présidente. Celle que l'opposante qualifie d'architecte des tortures semble contrôler la situation à la tête d'un clan militaro-affairiste qui a peut-être sacrifié son chef nominal, Nicolas Maduro, pour conserver le pouvoir dans le cadre de négociations secrètes avec la Maison Blanche. Cette phrase, mesdames et messieurs, cette phrase, elle est insane. Je la relis. Celle que l'opposante qualifie d'architecte des tortures, donc l'ancienne vice-présidente, actuelle présidente par intérim, semble contrôler la situation à la tête d'un clan militaro-affairiste, qui est aux manettes depuis un moment déjà, hein, qui a peut-être sacrifié son chef nominal, Nicolas Maduro, pour conserver le pouvoir dans le cadre de négociations secrètes avec la Maison Blanche. En mode, allez, ok, on te donne Maduro, tu laisses nous au pouvoir, avec tout ce qui va avec, et pour le pétrole, on va s'arranger. Ce serait ça l'histoire. Lisons. Caracas était d'ailleurs quadrillé lundi soir par des unités militaires lourdement armées et des collectivos, hein, des miliciens du régime à moto qui ont intimidé et arrêté des passants dès samedi pour empêcher tout début de soulèvement après l'annonce de la capture de Nicolas Maduro. Manquerait plus que le peuple demande des élections et de la démocratie, hein. Au moins 7 journalistes ont été arrêtés lundi, la plupart quand ils étaient à l'Assemblée. Les rassemblements en province contre le régime étaient peu nombreux et d'ampleur modeste. Visiblement, les Vénézuéliens jugent prudent d'attendre et ont compris que la chute de Maduro n'était qu'une première étape dans celle finalement incertaine de la dictature. Quant à Delcy Rodriguez, donc c'est l'ancienne vice-présidente, devenue présidente par intérim, elle n'a attendu que quelques heures après la capture de Nicolas Maduro par un commando américain pour se dire prête à travailler avec Washington, hein, ce sont ses mots à elle, dans le cadre de relations respectueuses et équilibrées. En clair, elle fait miroiter aux États-Unis l'ouverture du secteur pétrolier aux entreprises américaines, aux pétroliers américains. Un pragmatisme certain, ouais, on peut appeler ça comme ça, ouais. Compte tenu du fait que Donald Trump l'avait menacé dimanche d'être capturé ou tué si elle ne faisait pas ce qu'il faut, en clair, couper les liens avec les Chinois, les Russes, les Iraniens, en tant qu'ancienne ministre du pétrole, par ailleurs, Madame Rodriguez, a des interlocuteurs au sein de l'établissement pétrolier américain. Les négociations entre les figures du régime et la Maison Blanche ont, écoutez cette phrase, ont d'ailleurs peut-être, alors c'est au conditionnel, hein, on est dans les échos là, ont d'ailleurs peut-être été enclenchées depuis longtemps au vu des circonstances troublantes dans lesquelles Nicolas Maduro a été repéré par le commando américain héliporté et surtout l'élimination de ses 32 gardes du corps cubains dans une villa forteresse lors d'un assaut de moins de 10 minutes par un commando américain n'ayant déploré, lui, aucune victime. Tout cela paraît invraisemblable sans complicité interne. Waouh. Et puis, on n'est pas sur un vague compte cryptique Twitter, Internet. C'est les Échos qui écrivent ça, tu vois. Ils prennent des gants, ils sont un peu prudents, mais c'est un journal qui est assez rigoureux, quand même. Ouais. La Maison Blanche n'a pas caché non plus que l'installation prochaine de Maria Corina Machado, donc ça, c'est l'opposante, à la tête du pays, n'entrait pas dans ses plans. La numéro 1 de l'opposition a pourtant clamé lundi que lors d'élections libres et équitables, nous gagnerons avec plus de 90% des voix. Ce qui semble crédible, écrivent les Échos, tant est grand le discrédit du régime auprès des 28 millions de Vénézuéliens. On a un Trump qui dit, maintenant on commence à comprendre comment tout ça s'emboîte. On a un Trump qui dit, ouais, mais la chef de, il a dit ça il y a quelques jours. Non, mais la chef de l'opposition, la prix Nobel de la paix, elle est pas, c'est pas elle qu'il faut. Elle est pas populaire. Les gens la respectent pas. C'est pas elle qu'il faut. Donc on a un Trump qui dit que la chef de l'opposition, c'est pas elle qu'il faut. Voilà. On a un Trump qui dit que les élections, c'est pas non plus le truc le plus urgent. Et puis on a un journal, Les Échos, qui nous dit c'est quand même bizarre la manière dont ce commando est intervenu avec une efficacité redoutable, hyper vite, sans une perte côté américain, et ont réussi à shooter 32 gardes du corps cubains dans une villa forteresse. Voilà. En écrivant que forcément les États-Unis, les Américains ont eu des complicités en interne. Et on a une vice-présidente qui semble plutôt bien prendre les choses aujourd'hui. Waouh. Waouh. Bon, prudence, mais tout ça est quand même très intéressant. Donc, les échos revient à l'opposante Maria Corina Machado, hein, qui estime effectivement crédible qu'elle pourrait être élue présidente à l'issue d'élections démocratiques, mais, écrivent les échos, elle verrait alors aussitôt l'armée et les puissants clans mafieux au sein du régime actuel refuser le verdict des urnes, au risque d'affrontements sanglants selon les services de renseignement américains, voire d'une guerre civile, ce qui obligerait Washington à s'interposer en déployant des troupes au sol, option trop dangereuse. Selon le New York Times, le lâchage à ce stade de Maria Corina Machado par la Maison Blanche s'explique par le fait que, d'après les services de renseignement américains, son équipe et elle n'ont pas préparé un plan sérieux de prise en main des institutions et des leviers économiques. Ils se sont aliénés les entrepreneurs en appelant à des sanctions contre le pays après la présidentielle volée de l'été 2024. Donald Trump a d'ailleurs écarté toute élection au Venezuela dans les 30 prochains jours, estimant lors d'une interview à la chaîne américaine NBC que les États-Unis devaient d'abord remettre le pays sur pied. La constitution du Venezuela prévoit que Delcy Rodriguez peut exercer le pouvoir exécutif par intérim pendant 3 mois, prolongeable une fois. Allez, let's go pour 6 mois. Sauf déclaration d'état d'urgence, les élections devraient donc avoir lieu début juillet avec la question du vote des 8 millions de réfugiés à l'étranger. Sera-ce l'heure alors de Machado? Il n'est pas génial cet article? Je vous lis maintenant. Remettre sur pied en prenant le pétrole. Oui, Kazlin, Trump l'a déclaré très clairement. Sur France 2, me dit Léa, il parlait d'un membre de la CIA qui aurait infiltré l'entourage de Maduro pour effectuer cette opération. C'est fou, hein? Je trouve que l'article, en quelques lignes seulement, en quelques colonnes, éclaire quand même beaucoup ce qui pourrait s'être passé. Bon, alors, c'est pas parce qu'on souligne le caractère extrêmement problématique de cette opération américaine, décidée par Trump, qu'on va faire de Nicolas Maduro un ange, ce qu'il n'est pas. Et d'ailleurs, dans Le Monde, deuxième sujet, deuxième papier ce matin, dans Le Monde, il y a un papier... Il y a un portrait de Nicolas Maduro, de qui il est, de ce qu'il a fait, de son parcours, qui remet un petit peu l'église au centre du village et qui nous rappelle qui était Maduro, quoi. Alors après, si Trump veut dégommer tous les autocrates, tous les dictateurs du monde sur la planète, même quand il n'y a pas de pétrole, let's go, quoi. Mais on aura peut-être d'autres à lui désigner. Nicolas Maduro, l'héritier failli de la révolution bolivarienne, l'ancien président vénézuélien enlevé par les États-Unis, donc vous le savez, hein, il va être jugé aux États-Unis, avait été adoubé par Hugo Chavez avant sa mort en 2013. Il s'est maintenu au pouvoir par la répression. Pendant ces 13 ans, le pays a perdu 70% de son PIB et un quart de ses habitants. Alors, en grande partie à cause de la politique absurde de Nicolas Maduro et aussi en raison des sanctions américaines, hein, vous le savez. Néo, écrit dans le chat, qui es-tu, d'où viens-tu, quel a été ton parcours scolaire, Nicolas? La ref, c'est Zach Nani, le GOAT, vous l'avez. Lisons cet article. Le 8 décembre 2012, Hugo Chavez, atteint d'un cancer, s'apprête à subir une nouvelle opération à Cuba. Le président de l'époque appelle alors ses concitoyens à voter pour Nicolas Maduro si lui venait à disparaître. Assis à ses côtés, Maduro, qui est alors ministre des Relations extérieures et vice-président, reste impassible et déclare plus tard, je n'avais jamais voulu être président. Hugo Chavez meurt donc en mars 2013. Maduro est élu de justesse en avril. 50 et quelques pourcents des voix, hein, c'est très juste. Ni les partisans de la révolution bolivarienne, ni ses détracteurs, ni probablement lui-même ne pouvaient imaginer qu'il resterait près de 13 ans au pouvoir. Un règne auquel les forces spéciales américaines ont donc mis fin samedi. Capturé à Caracas, enlevé en compagnie de son épouse, Maduro s'est montré impassible en arrivant menotté à New York. Bonne nuit, bonne année, a-t-il souhaité à ses geôliers. L'homme a-t-il perdu son calme en entendant les mitraillettes américaines abattre sa garde rapprochée? L'intervention chirurgicale dessinée par le président américain Trump s'est soldée par la mort de quelques 80 personnes, selon un bilan non officiel. Tout à l'heure, on parlait des gardes du corps cubains, mais ce ne sont pas les seuls à avoir trouvé la mort. Présenté officiellement, il n'y a aucune victime côté des soldats américains, enfin aucune perte. Présenté lundi devant un tribunal de New York, le dirigeant vénézuélien s'est déclaré non coupable des charges de narcotrafic qui pèsent contre lui. Je suis un prisonnier de guerre. Nous reviendrons dans les prochaines semaines, bien sûr, sur le procès de Maduro. À en croire Washington, le dirigeant vénézuélien aurait refusé de partir à l'amiable. On peut aimer ou pas Maduro, mais il faut admettre que c'est un patriote, un vrai révolutionnaire qui ne plie devant personne, dit un vénézuélien de 77 ans, qui est un militant chaviste de la première heure, qui a été contacté au téléphone par... c'est quel journal ? Par Le Monde. Une autre vénézuélienne de 28 ans, elle n'est pas du tout d'accord avec ça. Un but de pouvoir, Maduro s'est cru intouchable, il a mal calculé Trump, explique-t-elle sans cacher sa joie. Le président Maduro se croyait protégé par les négociations pétrolières qu'il avait engagées avec Washington. Il n'a pas compris que Trump voulait avant tout un trophée politique, estime un diplomate. Débâcle économique. Exode migratoire. Énormément de Vénézuéliens qui ont quitté le pays ces dernières années. Dérive dictatoriale. Au vu de son bilan désastreux, la longévité de Maduro à la tête du pays qui détient les plus grandes réserves mondiales de pétrole a de quoi étonner. Comment a-t-il pu rester, tenir au pouvoir aussi longtemps? En 13 ans, le Venezuela a perdu plus de 70% de son PIB, un quart de ses habitants. Les infrastructures du pays sont délabrées, les salaires sont dérisoires, les prisons pleines. Le président vénézuélien a passé plus de temps à vituperer contre l'opposition et les sanctions américaines, accusé d'avoir ruiné le Venezuela, qu'à gouverner pour tirer son pays de la crise. Un économiste raconte, un économiste vénézuélien, Nicolas Maduro ne comprend rien à l'économie et aux finances. C'est affolant. Diplomate de carrière, Nicolas Rosas, qui a travaillé un temps dans l'équipe de Maduro, juge que cette image de brave type un peu sot, voulue par Maduro, était voulue en fait. Elle lui permettait d'entretenir la figure d'un président issu du petit peuple et sans prétention et de faire oublier la kleptocratie qu'il dirigeait. Son histoire, la voilà. Nicolas Maduro est né en 62 à Caracas, d'un père syndicaliste, d'une mère colombienne, quatre sœurs. Bon, je vais passer sur son parcours, peut-être. Études secondaires. Il envisage brièvement une carrière de guitariste de rock. Finalement, il opte pour la politique. Tout ça n'est pas très intéressant. Il rencontre son épouse dans ses premières années de militant. Il est envoyé à Cuba pendant un an. Bon, sa vie, son œuvre. Hein. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est comment il arrive au pouvoir. À son retour au Venezuela, après l'année cubaine, Maduro fonde le syndicat des conducteurs du métro de Caracas et en devient le président. Il fait dans les années 90 la connaissance du colonel Hugo Chavez, alors incarcéré pour, il est en prison, tentative de coup d'État et de l'une de ses avocates, Silvia Flores, qui va devenir son épouse. Voilà, c'est là. Ils vont faire carrière ensemble, ils seront tous les deux élus à l'Assemblée. Voilà, après la victoire en 98 de Chavez, ils s'épousent, blablabla, blablabla. Bon, vous savez qu'elle a été arrêtée aussi par les forces américaines. Hein. En devenant première dame de la nation, Silvia Flores ne s'efface qu'en apparence. Elle est de toutes les cérémonies et selon un proche du gouvernement de toutes les réunions importantes. Silvia est une femme de clan qui fait nommer ses proches et ses amis au poste clé. Succéder à un leader aussi charismatique que Chavez est un immense défi. Rappelez en 2013 Temir Porras, qui était à l'époque vice-ministre des Relations extérieures. L'opposition radicale qui a refusé de reconnaître la première élection de Nicolas Maduro, il a été élu de justesse, ne cessera de mettre la pression. Elle table à tort sur l'explosion du chavisme. Le président qui a été syndicaliste et que l'on dit fin négociateur saura contenir les rivalités. Notamment au sein du parti au pouvoir. En arrivant au pouvoir, l'héritier de Hugo Chavez, qui se sait fragile, hein, il n'a pas le charisme de Chavez, il n'a pas sa popularité, il est élu de justesse, annonce une poigne de fer. Au fil des années et des crises qui se succèdent, il fera preuve d'un vrai talent pour la survie politique. Il réprime les manifestations. Il fait taire les médias. Il noyaute les institutions. Il détourne les partis. Il manipule les élections, nomme des militaires à des postes importants et s'appuie de plus en plus sur le régime cubain. Maduro n'a rien inventé, il n'a fait qu'endosser le costume cousu par Hugo Chavez, note un diplomate. Mais Maduro, qui n'a jamais eu ni le bagou ni l'habileté de son prédécesseur, a passé des lignes rouges que celui-ci avait su éviter. La Cour pénale internationale, par exemple, enquête sur les crimes contre l'humanité commis au Venezuela. Sa réélection en 2024, clairement frauduleuse. L'opposition l'avait totalement boycotté, d'ailleurs, cette élection. Et les centaines d'arrestations qui ont suivi fournissent un prétexte rétroactif à l'intervention américaine. Les économistes pointent aussi la responsabilité dans le désastre économique vénézuélien de Hugo Chavez, qui a dépensé sans compter l'incroyable manne pétrolière des années 2000, lourdement endetté le pays. En 2014, le prix du baril de pétrole s'effondre, la descente aux enfers pour le pays commence. Il faudra attendre 2018 pour que Nicolas Maduro, qui n'a rien d'un grand stratège, amorce un début du virage économique. Les sanctions américaines, qui sont aussi responsables de l'état désastreux du pays, qui en 2019 frappe l'industrie pétrolière, accélèrent la libéralisation désordonnée de l'économie du Venezuela. Nicolas Maduro, comment a-t-il réussi à se maintenir au pouvoir ? Se demandait Le Monde au début de l'article. S'est maintenu au pouvoir parce qu'il a su le distribuer. Il laisse les militaires, les hauts fonctionnaires, les acteurs du secteur privé faire des affaires et de l'argent, beaucoup d'argent, légalement ou pas. Les exportations de pétrole sous pavillon étranger, les ventes d'or et de métaux rares, le trafic de cocaïne nourrissent le système. Nicolas Maduro n'est pas un narcotrafiquant. C'est pourtant ce dont l'accuse Trump. Et c'est pourtant sur cette base qu'il a été kidnappé et qu'il sera jugé. Donc ça va être très intéressant. Nicolas Maduro n'est pas un narcotrafiquant, écrit Le Monde, mais il a laissé se mettre en place une gouvernance trop souvent dépendante des réseaux criminels. La révolution bolivarienne aime les montres Rolex et les champagnes millésimés, Nicolas Maduro et Cilia Flores aussi. Voilà. Intéressant, hein ? Il est corrompu comme Jaja. Oui, le régime est corrompu, ouais. Zvedis me signale un reportage Arte disponible sur YouTube sur le parcours de Maduro qui est très bien fait. Donc voilà pour le portrait de Maduro. Vous le retrouverez page 2 dans Le Monde. Alors, et maintenant, next. Colombie, Cuba, sur le continent américain, Canada, pourquoi pas, sur le continent nord-américain, puisque à une époque, Trump parlait du Canada comme du 51e État américain, voilà. Ou alors le Groenland aussi, voilà, en Europe. Et là, on a plusieurs articles ce matin sur le Groenland. D'abord, le constat du journal La Croix ici, on change de journal sur les vues de Trump sur le Groenland qui agite l'Europe. Rappelons pour ceux qui auraient raté les infos de ces dernières journées, les déclarations du président américain sur une possible annexion du Groenland, réitérées le lundi 5 janvier, provoquent une forte inquiétude chez les Européens. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, hein, le Danemark qui administre aujourd'hui le Groenland, évoque la fin possible de l'OTAN en cas d'attaque américaine. Lisons ce papier, puis après on verra un article du Parisien sur comment Trump concrètement pourrait faire pour s'emparer du Groenland, et comment les Européens pourraient faire pour éventuellement l'en dissuader. Et puis un édito du Monde sur le fait que le Groenland doit rester européen. Lisons. Pourquoi les Américains convoitent-ils le Groenland d'abord ? Le président américain, Donald Trump, a répété dimanche 4 janvier que les États-Unis avaient absolument besoin du Groenland et annoncé qu'il entendait s'occuper de ce sujet dans 2 mois. Il y a Ganon 29 qui écrit dans le chat, mais si c'est un choix des habitants du Groenland, je ne vois pas comment le refuser. Alors c'est pas tellement dans cette perspective que se place Trump. C'est pas tellement dans cette perspective. Trump ne parle pas des habitants du Groenland. Non, la phrase elle est très claire. Il a déclaré et répété que les États-Unis avaient besoin du Groenland. Il ne s'agit pas de demander l'avis des habitants de cette région. Les États-Unis ont besoin du Groenland. C'est extrêmement clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'analyse. On ne prête pas des mots à Trump. On lit Trump. Voilà. Les États-Unis ont besoin du Groenland. Point. Donc, il faut que ce soit américain. Ce qui est bien avec Trump, c'est que tu n'as même pas besoin d'inventer, tu n'as même pas besoin d'analyser, tu n'as même pas besoin de mettre un regard éditorial. Il suffit de le lire, en fait, c'est assez fascinant. Le président américain a donc répété dimanche que les États-Unis avaient absolument besoin du Groenland et annoncé qu'il entendait s'occuper de ce sujet dans 2 mois. Et il donne le calendrier en plus. Cette fois, après le raid américain sur Caracas au mépris de toutes les conventions internationales et la publication d'une doctrine américaine de sécurité fin novembre-décembre, qui dit vouloir tenir toute puissance étrangère à l'écart du continent, l'Amérique c'est à nous, l'Amérique le continent, la menace d'une annexion par les États-Unis est désormais du Groenland prise très au sérieux. Donald Trump invoque des motifs de sécurité. Hein. Il dit oui, mais parce que le Danemark s'occupe pas bien du Groenland, il y a plein de Russes, il y a plein de Chinois qui lorgnent sur le Groenland et le Danemark ne fait pas ce qu'il faut pour protéger le Groenland. Ça, c'est le verbatim de Trump pour légitimer cette éventuelle intervention. Le Groenland reste le chemin le plus court pour un missile qui viendrait de Russie, voire de Chine, s'il devait visiter les États-Unis. Le Groenland se trouve aussi sur le passage du Nord-Ouest, cette voie maritime vers l'Asie qui est en train de se libérer avec la fonte des glaces. Et le sous-sol, tiens donc. Et le sous-sol de l'île abrite d'importantes réserves de pétrole, de gaz, de graphite, de lithium et d'uranium. C'est intéressant parce que les pays qui intéressent Trump sont étrangement, mais c'est sûrement un hasard, souvent des pays dont le sous-sol regorge de trucs. Ces raisons invoquées par Trump sont toutefois très discutables. La sécurité du Groenland étant déjà assurée par l'OTAN et les États-Unis. Le truc est top. Qui dispose sur place d'une base militaire. Donc les Américains sont déjà présents sur place. Hein, il y a un accord avec le Danemark. Quant aux ressources minières, elles sont difficilement accessibles, donc peu rentables. Seule une mine d'or et une autre de feldspath sont actuellement exploitées sur l'île. Parmi les motivations de Trump, la plus importante est peut-être finalement, et là on rentre dans le cerveau de Trump, et c'est là où ça devient passionnant, la plus importante est peut-être finalement l'envie de laisser son nom dans l'histoire comme un président ayant agrandi le territoire des États-Unis à l'image d'Andrew Johnson qui a acquis l'Alaska en 1867, acheté à la Russie pour 7 millions de dollars de l'époque. Finalement. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'on a commencé à s'interroger sur pourquoi Trump parle autant du Groenland, les Européens peuvent-ils s'opposer à cette annexion? Et c'est là où ça commence à faire flipper un peu, parce que tu sens que les Européens sont pas trop motivés pour l'instant. Ils sont pas très motivés pour l'instant pour lui dire stop. Alors que Donald Trump répète depuis des mois qu'il souhaite s'emparer de l'île, l'Union Européenne a longtemps fait profil bas, se contentant d'affirmer sa solidarité avec le Danemark. Ce mardi, le président français Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz, la première ministre italienne Meloni, le polonais Donald Tusk, on dit je crois, hein. C'est ça que vous m'avez dit, on dit pas Tusk. Le polonais Donald Tusk, l'espagnol Pedro Sanchez, le britannique Keir Starmer ont publié une déclaration commune pour soutenir leur homologue danoise. Le Groenland est en effet une partie du royaume danois et Copenhague a clairement marqué son refus catégorique de toute annexion par les États-Unis. Le ton de cette déclaration des Européens reste tout de même très modéré. Les chefs d'État et de gouvernement y indiquent leur engagement au service de la sécurité dans l'Arctique et appellent à poursuivre sur la même voie en coopération avec les États-Unis, je pense, c'est ça? Avec les États-Unis, bah oui. Une coopération qui doit respecter la Charte des Nations Unies, notamment la souveraineté, l'intégralité territoriale et l'inviolabilité des frontières. Ça tombe bien, c'est tout ce qu'aime Trump. Dans les faits, écrit la Croix ce matin, les Européens restent sans grands moyens pour s'opposer aux États-Unis sur cette histoire du Groenland. Leur seule défense pour l'instant a été un rappel des grands principes du droit international, sans beaucoup d'effet. Un projet de déplacement de plusieurs ministres des Affaires étrangères de l'UE au Groenland est aujourd'hui évoqué pour matérialiser ce soutien. La France envisage également l'ouverture d'un consulat à Nuuk, la capitale du Groenland. Le 21 décembre dernier, Trump avait pour sa part annoncé la nomination du gouverneur de Louisiane, le républicain Jeff Landry, au poste d'envoyé spécial des États-Unis au Groenland. Sa mission, il est chargé de faire de ce territoire une partie des États-Unis. Tout est écrit, tout est noir sur blanc, rien n'est caché. La mission de ce gars, c'est de faire du Groenland une partie du territoire américain. C'est écrit. En réponse, le Danemark avait convoqué l'ambassadeur américain pour demander quelques petites explications. Depuis l'entrée en fonction de Trump, un seul chef d'État européen a fait le déplacement à Nuuk, la capitale du Groenland. C'était Emmanuel Macron le 15 juin dernier. Donc voilà pour ce premier papier. Et j'en ai un deuxième, du Parisien cette fois, sur concrètement comment les Américains, enfin comment Trump, veut s'y prendre, pourrait s'y prendre pour attraper le Groenland et qu'est-ce que pourraient faire les Européens. Donc ils ont un peu mangé le, ils ont un peu mélangé le côté UE et le côté US. Je vais vous lire d'abord le côté US et après je vous lirai le côté UE. Comment les États-Unis pourraient s'emparer du Groenland alors que le président Trump a réitéré sa volonté d'annexer l'immense Arctique ? L'Arctique, des experts dessinent les différents scénarios d'une emprise américaine sur le territoire danois. Le plus fou, c'est que tout est dit, tout est écrit depuis super longtemps. Le Parisien rappelle que l'an dernier, Trump déclarait au Congrès américain à propos du Groenland, je pense que nous allons y arriver d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc là, il vient de le redire. Mais en fait, il le dit depuis un moment. Alors, qu'est-ce que pourraient faire les États-Unis ? Par exemple, pousser vers l'indépendance du Groenland pour conclure un deal. Le Parisien. Donald Trump a beau être imprévisible, son art du deal suit souvent le même schéma. C'est-à-dire estomaquer son adversaire, dire des énormités, pour dominer la négociation. Vous savez, notamment dans, comme lors des négociations commerciales. Les Américains utilisent sans doute ce qui s'est passé au Venezuela comme moyen de pression pour ouvrir des négociations politiques avec les Européens. In fine, ils obtiendront probablement les Américains ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une présence plus importante au Groenland. Selon plusieurs experts, les pressions économiques et diplomatiques pour arriver à leur fin représentent le scénario le plus crédible. Ils pourraient notamment monnayer leur soutien militaire à l'Ukraine. Voilà. Ils demandent énormément, genre il dit le Groenland c'est à nous, et en fait, ouais, il met la pression pour obtenir un peu moins, mais déjà beaucoup. Voilà. Ou alors il pourrait attiser les velléités d'indépendance des Groenlandais. L'administration américaine sera déjà en train d'élaborer un projet d'accord avec le Groenland. Il pourrait être proposé directement aux autorités de l'île, court-circuitant Copenhague et donc l'UE. Façon d'exacerber les tensions avec le Groenland, entre le Groenland et le Danemark. Même si un sondage confirmé il y a un an, l'hostilité des Groenlandais à 85% à un rattachement aux États-Unis. La proposition américaine prévoirait un accord de libre association, un cadre dans lequel les États-Unis fourniraient un financement, garantiraient des améliorations du niveau de vie des habitants. Une petite promesse de thunes. Le Groenland confierait les questions de défense à Washington, tant qu'à faire, tout en conservant son autonomie interne. Les États-Unis qui ont déjà des accords similaires avec la Micronésie, les îles Marshall, les Palaos. Donc ça, c'est un scénario. C'est un scénario. Deuxième scénario, l'annexion par la force. Un scénario à la probabilité extrêmement faible, selon Stéphane Audran, qui est un chercheur. Un événement impensable il y a encore un an. Désormais, toutefois, le risque existe. Mais il ne faut pas le surestimer, tempère l'expert. Des verrous existent, y compris au Congrès américain, pour empêcher l'administration Trump de s'en prendre au territoire d'un allié des États-Unis. À ceci près que l'opération, pour l'opération vénézuélienne, le Congrès américain, qui est censé donner son aval à toute opération militaire à l'étranger, n'a même pas été informé. Voilà, comme le dit MMG, le Congrès n'a pas su empêcher l'exfiltration de Maduro. Bah, du coup, il n'a pas été informé non plus, le Congrès. Donc c'est compliqué de s'opposer quand tu n'es pas informé. Pour une autre chercheuse, Cécile Pelodex, l'éventualité d'une attaque américaine est sous-estimée. Nous n'avons pas pris la mesure de ses propos, nous avons perdu un an, c'est très regrettable. Nous n'aurions pu mettre en place une stratégie différente, dit cette spécialiste de l'Union européenne et de l'Arctique, l'annexion du Groenland ne représenterait aucune difficulté opérationnelle. Tout est possible, hein, notamment par le fait qu'ils ont déjà une base sur place. Une intervention armée signifierait la fin de l'OTAN, la fin de l'Alliance Atlantique, avait averti la première ministre danoise. Pourtant, Trump refuse de l'écarter, cette intervention militaire. Et là, C'est le plus simple avec Trump, c'est de citer Trump. Bien qu'il existe une forte possibilité de parvenir à un accord sans recours à la force militaire, je n'exclus aucune option. Il est prématuré d'envisager une telle opération, selon Jean-Marc Riquelé. Il faudrait plusieurs paliers d'escalade avant. Ce serait une transformation majeure de la sécurité européenne, la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cas, intervention militaire américaine sur le Groenland, estime ce spécialiste, l'Europe serait inexistante, personne n'irait se battre contre l'armée la plus puissante du monde pour défendre le Groenland et ses 56 000 habitants. Ce que ce chercheur dit, c'est si demain Trump décide d'envoyer des forces spéciales prendre le contrôle du Groenland, aucun pays européen ne s'y opposera, en tout cas militairement, quoi. Alors, il y aura des déclarations, il y aura des petits communiqués. Il y aura des tweets sur X. Merci Marine Swin. Merci Shop69. Merci Astronaute Suédois. Donc ça, c'est côté américain. Côté européen, qu'est-ce qu'on peut faire ? Renforcer la défense du Groenland avec l'OTAN. Puisque Trump prétend que la sécurité nationale de son pays est menacée, prendre les Américains au mot servirait à leur couper l'herbe sous le pied. Avec le réchauffement des pôles, l'Arctique est une région de plus en plus stratégique. C'est vrai, on pourrait proposer aux Américains d'augmenter nos capacités militaires dans le cadre de l'OTAN, dit Jean-Marc Ricli, le chercheur qu'on citait tout à l'heure. En France, Raphaël Glucksmann, le député européen, plaide pour cette approche. Une base militaire européenne pérenne enverrait un signal de fermeté face à Trump et permettrait de tuer l'argument américain sur notre incapacité à assurer la sécurité du Groenland. Genre, les Européens, on fait une grosse base militaire, on met des moyens, et comme ça, on dit aux États-Unis, bah, arrêtez de dire qu'on n'assure pas la sécurité, c'est pas vrai. Quand Greg dit 56 000 habitants, c'est suffisant pour avoir une légitimité sur une île aussi grande. Attends. Si la légitimité ne vient pas des habitants du Groenland qui sont 56 000, elle vient d'où la légitimité des phoques, des glaçons, des baleines? Bah, peu importe le nombre d'habitants, c'est eux qui décident en vrai. Quel est le sens de la question? Les manchots peut-être, oui. Les ours polaires. Quel est le sens de la question? Il fait froid là-bas, ça se presse pas pour y vivre, quoi. Bon, je peux continuer? Donc voilà, une base européenne. Un engagement européen qui risque de ne pas faire le poids face au prétexte sécuritaire des États-Unis. Voilà. En 2025, le Danemark a pourtant dépensé beaucoup d'argent, hein, pour fortifier l'immense Groenland. Je crois qu'il y a 40 ou 50% de son effort militaire qui est fléché vers le Groenland. Mais Donald Trump le nie complètement et va jusqu'à humilier la défense danoise. Déclaration surréaliste de Trump depuis Air Force One il y a quelques jours, hein, pour se moquer des centaines de millions d'euros investis par le Danemark pour la sécurité du Groenland. Ils ont juste ajouté un traîneau à chien. Voilà. Le niveau du truc, quoi. Voilà. Donc voilà. Base européenne, pas sûr que ça suffise, quoi. Alors, sinon, autre solution pour les Européens, mise en avant par l'article, un déploiement militaire symbolique. Si les Européens ne sont pas en capacité de défendre l'île, ils peuvent au moins y déployer des forces symboliques pour obliger Trump à nous tirer dessus. Souligne Stéphane Audran. L'officier de réserve appelle cela la stratégie du piéton imprudent. Elle consiste à placer quelques centaines de soldats français, allemands et britanniques pour montrer notre détermination. Cécile Pelodex, la chercheuse, prône aussi ce rapport de force par le biais d'une coalition différenciée. On pourrait associer par exemple la Norvège, le Royaume-Uni, le Canada, ce serait un signal très fort. Elle compare cette task force à la coalition des volontaires en Ukraine pour apporter une réponse rapide. Une telle stratégie est courante, rappelle Stéphane Audran, mais elle fonctionne si on est prêt à aller au bout, c'est-à-dire prêt à se battre contre les Américains. Voilà où on en est. On est en 2026, les gars, quoi. On est en train d'évoquer l'idée de mettre des soldats européens sur un territoire pour dire les Américains, si vous voulez envahir, il faudra taper sur les Européens, par contre. 2026. L'année commence bien. Ce serait la fin de l'OTAN. Ce serait la fin de l'OTAN. Voilà. Et puis, on a un édito pour terminer sur ce sujet, puis on en reparlera demain, et puis après-demain, je pense, ce sujet. Il faut le suivre. Du Monde, qui dit le Groenland est et doit rester européen. Et on finira avec ça, puis après, je pense qu'on ira en Iran. Le Groenland après le Venezuela, point d'interrogation. Au lendemain de l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis en violant des principes élémentaires qui devraient régir les rapports entre nations, Donald Trump a passé en revue le 4 janvier à bord de l'Air Force One les éventuelles cibles à venir du nouvel impérialisme américain. Une fois de plus, la grande île du Groenland, qui est légalement un territoire autonome danois, a été mentionnée, provoquant de nouveau la consternation en Europe. Le président des États-Unis avait déjà évoqué un achat du Groenland au cours de son premier mandat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2019. Je sais pas, il était OK pour faire un chèque, un très gros chèque. Donald Trump avait comparé cette hypothèse à une grande transaction immobilière. Voilà. Évidemment, il avait battu en retraite face au tollé. Il avait même annulé une visite prévue au Danemark. 6 ans plus tard, il veut plus faire de chèque. Il dit on va faire autrement, quoi. Une telle menace est inadmissible, écrit Le Monde. Le 4 janvier, Trump a inclus ce territoire dans une liste qui comportait des ennemis historiques des États-Unis, Cuba, l'Iran, ainsi que le président de la Colombie, qui il passe son temps à agonir d'injures et à menacer. Président colombien élu démocratiquement, lui, hein, dans des conditions démocratiques, contrairement au président vénézuélien. Ce rapprochement est honteux et scandaleux, écrit Le Monde. Le Danemark a en effet toujours compté parmi les alliés les plus sûrs de Washington. Les arguments avancés par Trump pour justifier un tel projet d'agression ne résistent pas à l'analyse. Outre le fait que la loyauté de Copenhague n'a jamais été prise en défaut, l'accord de défense concernant le Groenland, signé en 1951 entre les États-Unis et le Danemark, permet déjà à l'armée américaine d'être présente sur l'île pour répondre effectivement à ce défi de sécurité que posent les ambitions de la Chine et de la Russie dans l'Arctique. Cet accord pourrait évidemment être révisé pour donner de plus grandes marges de manœuvre aux États-Unis, sans pour autant remettre en cause la question de la souveraineté entre le Danemark et le Groenland. Une annexion par la force de ce territoire européen porterait par ailleurs un coup fatal à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. En vidant sa substance, l'article 5 de la charte, selon laquelle une attaque contre un membre de l'organisation est une attaque contre tous et oblige à la solidarité. Est-ce que l'armée américaine qui attaquerait le Groenland déciderait de défendre le Groenland contre l'armée américaine au titre de l'article 5, puisque l'article 5 de l'OTAN oblige les membres de l'OTAN à venir en aide à l'un des pays s'il est attaqué? Voilà où on en est. Voilà. Il s'agirait d'une victoire éclatante offerte à la Russie de Poutine par les États-Unis de Donald Trump sans que cela coûte le moindre drone à Moscou. La récurrence des menaces et des insultes américaines a plongé jusqu'à présent les pays européens dans une sorte d'hébétude. Il est temps d'en sortir. Il n'est pas question de répondre à cette agressivité par une virulence dont les Européens n'ont pas les moyens. Mais il faut tracer des lignes rouges nécessaires sur le Groenland comme sur la régulation du numérique dont Donald Trump a juré la perte. L'heure est venue pour les Européens de parler enfin le langage de la souveraineté avec ce qu'elle implique, tout en continuant à chercher des points de convergence avec Washington sur des sujets de préoccupation communs comme l'Ukraine. Le bilan d'un an de courbettes européennes toujours plus humiliantes plaide désormais pour une plus grande fermeté. Le seul langage que comprenne Trump, les Européens doivent s'appuyer sur les alliés qu'ils comptent toujours au Congrès des États-Unis, hein, parce que ne prenez pas l'opinion publique américaine, ni même les élus américains comme un blot. Hein. Le président Trump est très critiqué aux États-Unis d'ailleurs, sa cote de popularité ne cesse de diminuer. Il y a les élections de mid-term qui arrivent aux États-Unis qui pourraient lui être très défavorables. Il y a des médias qui sont très critiques vis-à-vis de Trump, y compris d'anciens médias très traditionnels, qui ne sont pas isolés. Et bien sûr, il y a l'opposition démocrate qui espère bien prendre la majorité au Congrès à l'issue des prochaines élections. Les Européens donc doivent s'appuyer sur les alliés qui comptent toujours au Congrès des États-Unis, c'est de ça dont je parle, et sur une opinion publique américaine très majoritairement attachée à la relation transatlantique pour restaurer un peu de bon sens. Il y va de l'intérêt de tous. Est-ce qu'une majorité d'Américains souhaite réellement la rupture avec l'Europe? Le Monde dit ça nous étonnerait, quoi. Golden Hand, merci de préciser ça, parce que Parfois, on a l'impression que tous les États-Unis suivent Trump. Non, de la même manière que tous les Français ne suivent pas Macron, que tous les Russes ne suivent pas Poutine, etc. Enfin, un dirigeant n'est pas le peuple. Je vous lis. S'il y avait une nouvelle élection américaine, est-ce que les Américains voteraient Trump? Ça, on ne sait pas. Ça, c'est là. On est sur la politique fiction. Il n'y a pas de présidentiel avant 3 ans, je crois. Hein? Parce que les mid-term, c'est dans un peu moins d'un an. Un mi-mandat, un mandat de président américain, c'est 4 ans. Trump ne peut pas se représenter. Donc, le président américain actuel est encore, sauf problème de santé, évidemment, parce que Trump est super âgé, quoi. Normalement, il est là pour presque 3 ans. Quoi. Il ne peut pas se représenter. Au regard de la Constitution américaine, il ne peut pas se représenter. Tu ne peux pas faire plus de 2 mandats, consécutifs ou non, a priori, selon la Constitution actuellement. Je le dis bien pour le moment. Hein. Et après, le projet... Si les républicains réussissent leur coup, le prochain président qui succède à Trump, c'est un autre républicain, également MAGA, type comme le vice-président actuel J.D. Vance, et on ne sera pas très éloigné de. On est sur une politique qui sera assez peu éloignée de celle d'aujourd'hui. À suivre dans les prochains jours. On va suivre bien sûr cette actualité, sans doute encore un bon moment dans cette revue de presse le matin. On va rester à l'étranger, on va aller en Iran pour le deuxième sujet de ce matin. On a pris un petit peu le temps sur Trump, sur le Venezuela et sur le Groenland ce matin. Voilà, 52 minutes et on passe maintenant à l'Iran. Voilà. Parce qu'en Iran, il se passe des choses très importante en ce moment, un nouveau soulèvement populaire. C'est pas la première fois que les Iraniens se soulèvent contre le pouvoir. Et il y a de nouveaux soulèvements, de nouvelles manifestations, une nouvelle fois réprimées dans la violence. C'est l'article du Figaro ici. Iran, le régime réprime sans retenue. La répression s'intensifie au 10e jour d'un mouvement de contestation et née de l'hyperinflation, de la hausse des prix surréaliste en Iran. La mobilisation s'étend. Tir à balles réelles. Enlèvement des manifestants blessés sur leur lit d'hôpital. Aveu forcé à la télévision, face à la grogne des Iraniens qui ne faiblit pas depuis 10 jours, le pouvoir iranien réprime sans retenue. Ce mardi au matin, c'est au bazar de Téhéran, poumon économique de la capitale, berceau du soulèvement, que s'en sont directement pris les sbires du régime. En général, l'ultra-carista, on est là le matin à partir de 9h, 9h, 10h, ça dépend. 9h midi, 10h, 13h, ce matin c'était un petit peu plus tard. Les forces de sécurité ont soudain fait irruption dans plusieurs boutiques de ce quartier en passant à tabac les commerçants grévistes, mais aussi des passants sans lien direct avec les manifestations. En province, la répression est particulièrement féroce, notamment dans le sud-ouest du pays où la colère bat son plein. Dimanche, les forces de l'ordre ont pris d'assaut l'hôpital Romenei dans la ville d'Ilam, où des protestataires, dont nombreux blessés de la tuerie survenue quelques jours plus tôt dans une ville voisine, s'étaient réfugiés. T'as les forces de l'ordre qui prennent d'assaut un hôpital où étaient soignés des blessés frappés par les forces de l'ordre lors de manifs. Tout va bien. Sur plusieurs vidéos filmées par les téléphones portables publiées sur les réseaux sociaux, les images donnent un aperçu de ce climat de terreur, panique, hurlements, tirs de gaz lacrymogène, tirs à balles réelles, personnel soignant menacé, suivi par l'arrestation de plusieurs personnes embarquées pour une destination inconnue. L'Iran. C'est ça. Une escalade de violence parfaitement assumée par le guide suprême. Lors de son premier discours depuis le début des manifs, samedi, l'ayatollah Khamenei a ouvertement donné un blanc-seing aux forces de répression en affirmant que les fauteurs de troubles devaient être remis à leur place. Des menaces réitérées deux jours plus tard par le chef du pouvoir judiciaire iranien, aucune indulgence ne sera accordée envers les émeutiers. À ce jour, les manifestations ont fait au moins 35 morts, dont 4 enfants, des centaines de blessés, plus de 1500 arrestations. Cette fuite en avant par la violence n'est qu'une illustration de plus de la panique du régime. Le régime, c'est un journaliste iranien en exil qui dit cela, le régime est aujourd'hui dans une impasse totale, ni marche arrière, ni marche avant. Il ne lui reste plus que ce recours à la force répressive. Dépassé par la grogne, le gouvernement iranien a tenté dimanche de calmer les protestataires en annonçant une aide de 10 millions de rials, c'est-à-dire 6 euros par personne et par mois pendant 4 mois, pour réduire la pression économique sur la population. Mais dans un pays miné par l'inflation et où le salaire moyen tourne autour des 170 euros par mois, ce ne sont pas quelques mesures cosmétiques qui vont nous aider à mieux vivre et à nous faire rentrer à la maison. Peste un habitant de Téhéran, abonné aux manifestations, qui n'a aucune intention de renoncer à la rue, loin de se tasser. La fièvre anti-régime, la plus importante depuis le mouvement Femme, Vie, Liberté, dont on avait parlé ici, touche désormais 27 des 31 provinces du pays. Donc on a des propos de manifestants. Ici, tant que le mollah ne sera pas mis dans un linceul, cette patrie ne sera pas une patrie, prévient un graffiti. Mort au dictateur, hurle à l'unisson les contestataires dont les revendications, d'abord sur le pouvoir d'achat, hein, d'abord économique, sont vite devenues politiques. Hein. Les mots d'ordre des manifestants visent à la fois la vie hyper chère en Iran et le régime. Fragilisé en interne, l'ayatollah au turban noir l'est aussi en externe face à un Trump qui a promis de frapper l'Iran si les autorités tuent des gens comme si elles l'ont fait par le passé. À la suite de ces menaces proférées dimanche 4 janvier, seulement quelques heures après l'intervention américaine qui a fait tomber le président Nicolas Maduro au Venezuela, les services de renseignement britanniques ont même laissé entendre que le guide suprême iranien envisagerait une fuite vers la Russie si l'escalade devait être incontrôlable. Pour l'heure, un bras de fer d'une extrême violence dont personne ne peut prédire l'issue se joue entre le pouvoir et la rue. Dans les images provenant de plusieurs villes du pays, les protestataires affichent un jusqu'au-boutisme à toute épreuve, défiant les canons à eau, poursuivant les miliciens Basiji, attaquant les véhicules des forces de sécurité. Ce mardi, une foule en furie a carrément mis le feu à la banque agricole de Malek Shahi, symbole du pillage et de la corruption du régime, pour venger ses habitants tués par les agents du régime. Pour un reporter, cette radicalisation iranienne trouve sa source dans une réalité amère des gens qui n'ont plus rien à perdre. Lorsqu'une personne ne peut plus assurer l'achat du pain ou des médicaments de sa famille, lorsqu'elle ne voit aucun avenir et se sent chaque jour plus proche du gouffre, la peur des matraques, des gaz lacrymogènes, voire de la mort s'estompe. C'est précisément ce qui fait naître les révolutions, le moment où le coût du silence est plus élevé que celui de la résistance. Alors, un soulèvement populaire en Iran, c'est pas le premier. Hein. À chaque fois, réprimé dans l'ultra-violence. La question que pose la Croix, c'est est-ce que l'ultra-violence du régime contre sa population va suffire cette fois à éteindre. Salut Zeldam, il y a du cinéma à la fin si tu veux. Attends, il y a Zeldam le pauvre. Zeldam qui dit je vous laisse pour cette revue de presse, assez déprimé aujourd'hui, j'ai du mal à suivre les infos. Zeldam, ça s'allège dans pas longtemps, on va parler des hackers russes. Non, mais en vrai c'est plus léger après. Donc la question c'est, est-ce que l'ultra-violence de la répression du régime va suffire cette fois ou est-ce qu'on est sur le point d'une révolution iranienne ? Merci Samuel, merci MMG de nous proposer ces infos dessus, alors que ça semble relativement ignoré par pas mal de médias mainstream à cause de la neige et de Trump. Alors je pense que les médias de qualité, même audiovisuels, doivent parler de l'Iran en ce moment. Hein. je pense. Zelda, t'inquiète, là, on a fait le plus dur. C'est marrant parce que Trump menace quand même d'intervenir, hein, depuis un moment. Hein. Mais c'est marrant, il menace souvent d'intervenir sur les pays où il y a du pétrole. Ça, c'est bizarre, par contre, c'est une espèce de. C'est une, comment on appelle ça, un hasard, une coïncidence. Oui, ou des terres rares, oui. Alors, ça, c'est très étrange. Mais ça, c'est la faute n'a pas de chance. Prore me dit que les chaînes d'info et les 20h, les JT de 20h parlent très peu de l'Iran. C'est vrai? Même les. Même les. Ouais, ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, l'Iran, c'est un sujet qu'on suit régulièrement ici. La neige, alors, nous aussi, on va parler de la neige, mais oui, la neige, j'en parle, mais j'en parle à la fin de la revue de presse, quoi. Ça me semble plus important de parler. En ce moment, du Venezuela, du Groenland et de l'Iran. Attention, la neige, ça glisse. Ouais, comme avec Francky Vincent, on sait. Je vous emmène en Russie, enfin en France et en Russie. On va parler des hackers russes. Il y a Proor qui dit BFM, ça fait 2h30 qu'ils sont sur l'enterrement de Brigitte Bardot. Oui, bon, ben voilà. Alors, ça s'appelle la hiérarchie de l'information. Selon le média, selon le projet éditorial de la rédaction, on va mettre l'accent sur telle ou telle info. Donc, là, j'ai vu, il y avait un papier ce matin dans Le Parisien sur l'enterrement de Brigitte Bardot. Je ne vous en parlerai pas. On a déjà parlé de la mort de Brigitte Bardot. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc, on ne consacrera pas 2h30 à ça, et même aucune seconde. Ça ne rentre pas dans la ligne éditoriale de la chaîne. Mais si ça vous intéresse, il y a des chaînes d'infos là-dessus. Et je crois que Le Parisien en fait même sa une ce matin. Voilà. Alors, parlons de ces hackers russes. Que veulent-ils? Qui sont-ils? Voilà. Par qui sont-ils soutenus? Et quels sont ses liens avec le régime de Vladimir Poutine? C'est un article dans L'Humanité que j'ai trouvé passionnant. Cyberattaque. Autant escrocs qu'espions, ces pirates russes peuvent travailler le jour pour les renseignements militaires et passer leur nuit à racketter ou saboter des collectivités, des entreprises, comme c'est arrivé à La Poste en cette fin d'année. Qui sont les hackers du groupe No Name 057? Ils ont des noms étranges, ces groupes de hackers russes, écrit Luma. Fancy Beer, Cozy Beer, Ours Chic, Ours Confortable en traduction littérale, ou Nonem 057, celui qui a revendiqué sur le réseau social Telegram la cyberattaque visant la Poste, notre Poste, notre Poste. Oui, comme le dit Alain Prout, mes colis, mais oui, la nôtre. Pour perturber la distribution de colis les jours précédant Noël, action réitérée le 1er janvier. Les gars, ils ont voulu empêcher les petits enfants français, hein, et leurs parents d'avoir leurs cadeaux sous le sapin de Noël. Alors là, ça va chier. Nonem est adepte des attaques en déni de service, distribuer des DDoS, saturer les serveurs de requêtes pour les rendre inaccessibles. Vous connaissez ça par cœur. En France, ils ont été déjà pris au site de l'Assemblée nationale ou au service de la RATP. Surtout pendant les fêtes de fin d'année 2024, ce même groupe avait déjà revendiqué des attaques en déni de service contre les sites de nombreuses villes. Nantes, Bordeaux, Poitiers, Nice, Montpellier. Mais aussi l'assureur AXA ou encore le secrétariat d'État aux anciens combattants, à croire que Nonem veut faire de ces attaques une tradition de Noël. Le groupe est communément qualifié de pro-russe ou de proche du Kremlin. Jamais l'état-major russe ne revendiquera de telles opérations. Mais les plus de 6000 attaques attribuées à Nonem par Europol depuis 2022 ont ciblé quasi exclusivement l'Ukraine et ses alliés. Point d'exclamation, RDP, revue de presse, Moule White. Tu auras la réponse à ta question. Depuis une vingtaine d'années déjà, le pouvoir russe est extrêmement tolérant, voire accueillant, envers les pirates informatiques qui peuvent s'adonner sur son territoire aux activités les plus crapuleuses, tant qu'ils ne touchent pas aux intérêts de l'État russe ou des entreprises russes. Le chercheur Yannick Harel explique que le cyberespace russe se présente comme un curieux amalgame entre pouvoir central, agents spéciaux, sociétés privées et cyberactivistes, lesquels ne rechignent pas à se cofinancer par la criminalité en ligne. Pour ne pas être, merci Zeldam, pour ne pas être directement relié à ces groupes, le Kremlin use de moyens détournés pour financer ces groupes. Par exemple, selon une note du ministère américain de la Justice datée du 9 décembre 2025, se basant sur les agences de renseignement, plusieurs membres identifiés de No Name seraient employés du Centre d'études de l'environnement des jeunes et de surveillance des réseaux, organisation créée par décret du président russe, pour veiller à la sécurité d'Internet pour la jeunesse russe. Tiens donc. D'autres groupes seraient financés au coup par coup, à la manière de mercenaires. Le mode opératoire de No Name, s'il est assez simple, réclame néanmoins des fonds. On va voir d'ailleurs pourquoi dans un instant. Il recourt en effet via la messagerie Telegram à des volontaires qui mettent à disposition leur ordinateur et connexion Internet le temps de mener une attaque coordonnée pour saturer les services ciblés. Jusqu'à 8000 personnes auraient ainsi mis leur matériel à disposition de No Name pendant les fêtes pour attaquer la poste. Notre poste. Nos colis. Voilà. En échange d'une petite rémunération en crypto-monnaie. Opération, ah, il faut la financer bien sûr. Financée soit par le pouvoir russe, soit par la cybercriminalité. C'est en 2016 que les liens entre certains collectifs de hackers russes et le Kremlin sont devenus plus évidents. Kozibir et Fontsibir s'en étaient pris au Parti démocrate et en particulier la candidate Hillary Clinton, volant des dizaines de milliers de documents de campagne. Poutine avait alors promis à l'époque l'immunité à la douzaine de pirates russes identifiés par l'enquête du FBI et de Microsoft. Microsoft qui hébergeait les serveurs du Parti démocrate. Parmi ces noms, certains étaient réputés appartenir aussi à la Direction générale des renseignements de l'état-major des forces armées de la Fédération de Russie. Fontsibir avait déjà attaqué la chaîne française TV5 Monde, dont la ligne éditoriale n'avait pas plu au Kremlin. Le 8 avril 2015, les infrastructures de diffusion de la chaîne publique, donc TV5 Monde, étaient tombées dans 200 pays et territoires. La messagerie électronique de la rédaction avait été détruite, attaque qui avait coûté à la chaîne plusieurs millions d'euros. C'est dingue, hein ? Après 10 ans d'enquête, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a rassemblé suffisamment de preuves pour accuser fermement le renseignement russe via Fontsibir d'être derrière cette attaque comme celle des Macron Leaks, ces milliers de mails de l'équipe de campagne qui avait été diffusée en 2017. Moi, je suis d'accord avec All United. Groenland, ils font ce qu'ils veulent. Mais si ça attaque la poste, ça va pas du tout. Et on dit beer, oui, c'est vrai. On dit pas beer. C'est comme la série, la télé, là. Tout sur la cuisine, là. C'est vrai qu'on dit beer, c'est ours. C'est pas beer. C'est pas une bière, oui. C'est quoi la série, déjà ? The Bear. Voilà, c'est ça. Rodine nous dit bonjour, c'est là où je trouve que c'est pertinent de dire que la guerre est déjà, non pas The Berber, que la guerre est déjà chez nous. Le nombre de tentatives de hack sur les infrastructures nationales est conséquent et régulier. La seule différence, c'est que ça se passe en ligne, donc c'est moins visible du grand public. Et c'est pas aussi visuel que des soldats sur une ligne de front. Intéressant ça. Teddy Bear, voilà. J'ai pas la rêve de... Ok, il y a des rêves que j'ai pas. Édouard Baer, joli. Donc voilà, pour ces hackers. D'ailleurs, on devrait dire un sweat. Ouais, je sais. Ouais, attendez, on fait une pause là-dessus, c'est un débat passionnant. Cyril, 8574, relance le débat. On devrait dire un sweat, un sweatshirt. Et pas un sweat. Mais qui dit un sweat ? Qui dit donc, il est bien joli ton sweat. T'as vu mon joli sweatshirt ? Qui dit ça ? Hein ? On l'a francisé en fait. On l'a. Ma compagne dit passe-moi le sel. Oh là là, putain, le mépris d'El Chino, les gens qui ont appris l'anglais correctement. Oh, le mépris. Alors, Colin Koch a été harcelé par ses potes anglaises et du coup, elle dit sweat. Ah, ne dis, moi je dis pull, comme ça le problème est réglé. Tout le monde dit pull maintenant?
Ah ouais?
Moi je dis un sweat. Je dis un sweat.
Ou un hoodie.
Ça c'est, c'est un sujet important ça. D'ailleurs Cyril dit on devrait pas dire pull. C'est vrai. On devrait dire poule. P-U-2-L. On devrait dire poule. Un pull over. Eh oui. Donc pull n'est pas une solution. Pull ne fait que relancer le débat. Eh oui. Tu veux échapper au sweat sweat. Tu dis pull, faut dire poule. Eh oui. Ah. Alors, un chandail. Hyper sexy le mot chandail. Vous avez fait un sondage là-dessus? C'est parti, il y a un sondage les gars, let's go, les modos ont lancé un sondage. Est-ce que vous dites sweat shirt, sweat shirt? Est-ce que vous dites, est-ce que vous préférez dire pull alors qu'il faut dire pull? Est-ce que vous dites hoodie? Est-ce que vous ne comprenez rien? À vos votes, les beaux gosses. J'adore. Alors, vous êtes 30% à dire sweet, vous n'êtes que 11% à dire sweat. Voilà, vous êtes 40% à préférer le mot pull alors qu'il faut dire poule. Hein? 8% hoodie et je ne comprends rien, 12%. J'adore. J'adore. J'adore ce débat. C'est bien aussi de détendre avec des petits débats comme ça. Voilà. Hein? Comment je pourrais dire, moi je vais dire mon sweat. Je vais rester sur sweat, moi. Moi je vais rester sur. Tu vois cette dame, tu vois, je t'avais dit de rester. Moi je vais rester sur sweat. Oui, comme la chanteuse là. Celle qui avait fait des titres avec beaucoup de succès là. Comment ça s'appelle Taylor Swift. Voilà. Désolé. Et nature, ils disent quoi? Ah ben, ils disent rien. Le je ne comprends rien, c'est vraiment pour ceux qui ne veulent pas faire d'efforts du tout, me dit United. Oui, mais on aime tout le monde ici. Brisby dit transpirer, se dit sweat. Non, mais on a compris. Il y a Brisby qui essaie de nous expliquer l'histoire. Non, mais on a compris depuis le début. C'est... J'ai vu un ou deux messages. Non, parce que ça vient de sweat, la sueur. Donc il faut dire sweat. Non, mais tout le monde a compris l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on décide de prononcer, quoi. Tellement captivé par ce débat, me dit Archange, que j'ai mis ma casserole sur le feu il y a 10 minutes, mais sans allumer le feu. Ah bah, ça risque pas de cuire, hein. C'est sûr. Tiens, d'ailleurs, j'ai vu un article sur Taylor Swift ce matin. Comme quoi les Swifties, les fans, étaient décontenancés pour certaines par le dernier album. Je sais pas quoi, j'ai rien compris parce que je ne connais rien. Mais j'ai vu un article littéralement sur ça ce matin. Il comprend rien. Voilà. De toute façon, moi, j'ai l'impression que
c'est toujours la même chanson.
Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu ce débat-là, mais peut-être qu'on l'aura. Moi j'ai écouté plusieurs chansons, mais j'avais l'impression que c'était toujours le... J'ai l'impression que je m'étais gouré, que j'écoutais toujours la même. Mais bon, les goûts, les couleurs. Bon, on enchaîne ? Allez ! De quoi on parle après, là ? Ah ! Enfin, le froid, la neige ! Non, on va pas partir sur Taylor Swift. Non, on va parler du froid et de la neige. Les pingouins, la meilleure façon de marcher pour ne pas glisser, se casser les coccyx, voilà, ou autre chose. Voilà. Le Parisien, ce matin, dans un dossier très, 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 très concret, très vie quotidienne. Comment ne pas vous casser la gueule. Voilà, ça pourrait être intitulé comme ça. Voilà. Et Le Parisien nous donne des conseils sous la plume d'Estelle Dautry sur la manière de marcher quand ça glisse. La neige revient en abondance ce mercredi matin, c'est très très beau sur Paris. Et il convient ces prochaines heures encore de faire attention aux chutes et aux fractures liées aux glissades. Depuis lundi en Ile-de-France, les pompiers de Paris ont effectué 431 interventions pour des chutes. Et Lydia est dans le live et nous dit, et Lydia, immense joueuse valo, je suis tombée en sortant de chez moi il y a 15 minutes, fin de la blague. Et en plus, Lydia, elle tombe de très très haut. Moi, quand je tombe, en fait, en termes de hauteur, ça tombe de pas très très haut. En fait, entre debout et couché, je vois pas bien la différence. Et Lydia, elle voit la différence. Elle voit la différence. ça tombe de très très haut. Ça tombe de très très haut. Il y a des photos. Si on cherche sur internet, il y a des photos de nous deux. Littéralement, on n'appartient pas à la même race humaine, quoi. C'est-à-dire il y a clairement un être humain de demain, tu vois, élancé. Voilà. Et puis plus les gens d'avant, quoi. Et on a 1m50 de différence à peu près. La photo est très drôle. La photo est très drôle. Oui, Navi un peu. Voilà. À côté de Navi, mais sans le bleu. Sans le bleu. Sur le côté bleu. Mais en vrai, Evoxia, elle se met du bleu, c'est une navire, hein, elle est chut, comme ça. N'est-ce pas? Ceux qui la connaissent. Donc, je reviens à mes glissades. On se parle par mégaphone. Elle ne comprend rien quand je lui parle. Il faut que je hurle. Donc, les chutes. Les jeunes se cassent le poignet parce qu'ils se rabattent avec les mains. Les personnes âgées, elles, n'ont pas ces réflexes. Putain, cette discrimination sur les vieux, là. Hein, les personnes âgées, elles mettent pas les mains. Et du coup, elles se fracturent le col du fémur ou les vertèbres. Allez, bim. Le mieux, alors, le conseil est génial. Le mieux, c'est de faire un roulé-boulé comme au judo. Rappelle le professeur de médecine et de biologie du vieillissement au CHU de Lille, Éric Boulanger. Tu es vieux. Tu glisses. Il faut que tu fasses un roulé-boulé. Mais parmi tous les gens que vous avez vu glisser ces dernières heures en France, vous avez vu combien de gens faire des roulé-boulés. Le professeur a dit, le mieux, c'est de faire un roulé-boulé, comme le judo. Qui fait ça? Qui roule boule? Qui roule boule? Qui a roulé-boulé ici? J'adore. Il y a Chaotic Route qui dit j'ai des soucis d'équilibre, je me balade partout avec la poussette de mon enfant vide. L'enfant étant à l'école, un déambulateur discret, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ma mamie de 80 ans, je vais lui dire ça. Non, mais personne ne roule boule. Ah, si tu tombes en arrière, tu peux pas roule boule. Ben oui, en plus. Enfin, on devrait roule boule. Voilà. Dit le professeur. Alors, si vous n'avez jamais fait de judo et que vous savez pas roule boule, ce n'est peut-être pas le moment de tenter des figures, cependant vous pouvez déjà faire attention à votre équipement. Voilà. Il faut des chaussures adaptées, éviter les semelles lisses et glissantes. Oui. Les talons, moi je vois des parisiennes avec des talons sur le verglas, je dis les gars, non, enfin les gars, les filles du coup. Privilégiez les chaussures qui tiennent la cheville, qui ont de petits crampons, des semelles antidérapantes. Voilà. Hein, c'est conseil de bonne aloi, mais... Enfin, tout le monde a l'expérimenté, les petits dérapages sur le verglas demandent d'être bien sur ses appuis. Bien sur ses appuis. Le conseil premier reste de ne pas sortir. D'autant plus si on est âgé. Alors que pourtant, moi, je brave la neige, je brave le verglas, je brave les frimas, parce que je me déplace en ce moment. La canne, ça glisse, évidemment. Mais ça n'est pas un appui sur la neige et le verglas. Hein. Qui dit rester à la maison, dit aussi rester actif. Hein, si vous restez à la maison... Il faut continuer à marcher, faire des levées de chaise. Comment ça, faire des levées de chaise? Faut prendre sa chaise et la lever en l'air? Ah non, faut se lever de sa chaise. Bon, je sais pas. Il faut faire des levées de chaise. Il faut tourner en rond s'il le faut, mais il faut bouger. C'est pour les streamers, ça. Téléphoner des amis aussi pour... J'adore les conseils. Et si vous restez à la maison, il faut aussi téléphoner des amis pour les interactions sociales. C'est quoi ce conseil? J'ai pas d'amis, moi. J'ai personne à appeler, moi. Si vous restez à la maison à cause du froid, il faut téléphoner à des amis pour continuer à avoir des interactions sociales. Mais j'ai pas d'amis, moi. J'ai personne. J'appelle qui? C'est quoi ce conseil? C'est vous, mes amis? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc je lance un stream, quoi. Même si je lance un stream, je m'assois. Donc je suis pas en déplacement à la maison. Donc il y a un truc qui va pas là. Il y a un truc qui est contradictoire dans ces conseils. Reprends une activité physique une fois la vague de grand froid sera toujours utile. Une personne âgée qui a déjà chuté fera de petits pas, ne lèvera plus trop les jambes. Ça, c'est moi, ça. Et donc sa condition physique diminuera encore plus. Attends, j'ai l'impression de me voir dans un miroir. Nous menons des programmes de prévention, de renforcement musculaire et de travail sur l'équilibre. Chaque petit effort compte. Là, je vais acheter mon tapis pour courir. Là. Enfin, si la chute a lieu, ne pas hésiter à chercher d'autres causes. Quand il y a une chute sur le verglas, on sait pourquoi il y a une fracture, mais seulement 20% des patients âgés se voient prescrire une densitométrie osseuse après un tel traumatisme. J'aimerais que ce soit fait systématiquement à partir de 60 ans, tous les 5 ans, hein, ainsi qu'un dosage de vitamine D pour dépister des cas d'ostéoporose, hein, quand les os commencent à s'affaiblir là. Pour autant, il faut bien se rendre à l'évidence, les Français sont têtus, les conseils sont très peu écoutés, on voit toujours les mêmes chutes chaque année. Alors ça, quelqu'un me disait tout à l'heure, voilà le scoop du journaliste, il fait froid en hiver, ça glisse. Oui, mais les Français sont têtus, les Français n'écoutent pas. Alors qu'est-ce que fait le journaliste? Ben, il répète. Hein. Alors oui, vous savez tous qu'il fait froid, vous savez tous qu'il y a du verglas, mais tout le monde se casse la gueule quand même. Regarde, Evoxia, qui est dans la fleur de l'âge, Evoxia, hein, c'est une jeune. Bah, du haut de son 2m25 ce matin, elle est tombée. Non, Evoxia. Pourquoi tu dis Elidia? C'est Evoxia. Sugar. C'est pas Lydia qui est tombée. C'est Evoxia. Tu confonds les femmes! Tu confonds les femmes, Sugar! Incroyable ça. Donc voilà, et pourtant elle est dans la fleur de l'âge, elle tombe. Donc vous voyez bien, donc faut répéter. Comment ça? C'était Lydia tout à l'heure? Merde, j'ai confondu Lydia avec Evoxia. C'était Lydia dans le chat? Depuis le début? C'est moi qui confonds les femmes? Mais Lydia fait ma taille. Donc je raconte n'importe quoi depuis tout à l'heure. Oh merde, elle est toujours là? Putain, Lydia, je t'ai confondu avec Evoxia. Ah, pour Valo, ça marchait, parce que les deux sont très fortes sur Valo. Merde. Dites-moi qu'elle est partie. T'es plus là? Merde. C'est pour ça que j'avais pas compris ta blague. Mais c'était pas une blague. Dites-moi qu'elle est partie. Elle est partie. Merde. Je confonds les femmes. Enfin, c'est des joueuses de Valo aussi. Comment voulez-vous? Ok. Ah non, parce que Lydia fait ma taille. Bon, Lydia, je m'excuse, je suis désolé. Et oui, j'ai vu du A, j'ai du Valo, quoi. Bon, je suis désolé. Bon, donc, et Lydia s'est cassé la gueule. C'est ce que je disais. Donc, il faut répéter. Et. Je suis vraiment sénile, moi. Je suis vraiment totalement sénile. Et maintenant, on va aller même dans. Comment dire? Dans les cas pratiques. Voilà comment il faut marcher. Voilà comment il faut marcher. Quand il y a du verglas. Regardez. C'est comme ça qu'il faut marcher. Pour éviter de glisser sur le verglas, marcher comme un pingouin. Donc. Alors, on va montrer. Et Lydia, si tu es toujours là, tu regardes. Voilà. Donc. Le buste. Légèrement en avant, légèrement. Hein. Ok. Les mains hors des poches. Alors, jamais comme ça. Hein. Jamais comme ça. Hein. Non. Un peu écarté pour l'équilibre. Ok. Comme ça. Ok. Les jambes légèrement écartées. Stable sur les appuis. Regardez la stabilité. Là, il peut y avoir du vent. Rien ne bouge. Hein. Je suis. Là, vous pouvez me pousser. Le centre de gravité, il est là. C'est comme en MMA. Pied en V vers l'extérieur. Très important. très important. Pied en V vers l'extérieur. Comme ça. Voilà. C'est un peu dans les tenses des canards. Et faire de petits pas. Voilà. Et là, comme ça. Et là, si dans la rue, on vous voit marcher comme ça dans les prochains jours, là, c'est un signe de ralliement. Ça veut dire que vous étiez sur ce stream. Avancez le pied à plat en traînant la semelle. Comme ça. Voilà. Je vous fais une démo. Bien écarté, hein.
Là, je sors du champ, je reviens. Là, je reviens pour bien vous montrer.
Notez l'inclinaison du buste. Les bras légèrement écartés, les jambes écartées, les pieds bien en V. Voilà. Alors, voilà. J'ai peut-être sauvé des vies là. À l'heure où on parle, 12h31. Mercredi 7 janvier 2026, je vais peut-être sauver des vies là. Et voilà. Arrête, Captain Oui, bordel. Arrête. Entraînant la semelle. Oui, mais j'ai un tapis là. Si je traîne la semelle, je vais me casser la gueule et je vais finir par me casser de coccyx en vrai, quoi. Merci, Tonton Maquet. Merci, Benjamin. Merci pour ton message. Merci, j'avais pas vu, merci. Sauver des vies, mais retirer de l'aura aussi. Assassin d'aura, va. Oui, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez ? Un Samuel Etienne avec de l'aura ou un Samuel Etienne encore en vie dans les prochains jours ? Bon, alors. Voilà. Bon, voilà. Donc, moi, mon conseil, c'est dans les prochains jours, pensez plutôt à votre sécurité, voilà, qu'à votre style. L'aura, le style, il sera bien temps quand les jolis jours seront de retour, hein, quand le printemps sera là, hein, que les couches qu'on diminueront, enfin les couches de vêtements bien sûr, hein, que l'humeur sera un peu plus guirette, hein, que les petites étincelles s'allumeront dans les yeux des adolescents. Il sera bien temps de penser au style. Voilà. Là, visons la sécurité. Moi, c'est ce que je propose. Voilà, c'est tout. Bon, évidemment, ceux qui nous écoutent en podcast, là vous avez raté une partie importante du spectacle. Bah, mais vous l'avez sur Twitch, en replay ou sur YouTube. Voilà. Attends, je m'en veux tellement pour évoquer à Elidia, là. Possible, je suis vraiment sénile, quoi. Pff, c'est incroyable. Allez, on finit du cinéma, hein? On finit de façon chill. Ouais. Courage, pas. Merci MMG. Ne vieillissez pas, hein. C'est très dur. Je me suis couché, j'ai pas beaucoup dormi. Je voulais me coucher super tôt. J'ai pas streamé hier soir. Je voulais être en forme pour ma journée un peu chargée là. Résultat, je me suis endormi à 2h du matin. Super. J'ai pas réussi à m'endormir. Du coup, j'ai lu les journaux dans mon lit. Enfin bon. Voilà, ceci explique peut-être cela. Cinéma. Mercredi, cinéma. Mais souvent, plus je suis fatigué et plus je dis de bêtises, donc c'est pas plus mal. Alors, il y a deux films qui ont eu... qui ont un peu les honneurs de la presse ce matin. Il y a plein d'articles très positifs sur deux films. Un film de Jim Jarmusch s'appelle Father, Mother, Sister, Brother. Et il y a un autre film qui est un film français qui s'appelle Ma Frère, sur des enfants de cité, et qui a beaucoup de jolis papiers aussi. Donc je vous ai mis deux films de côté. On va aller voir les trailers, bien sûr, les bandes annonces. D'abord, le film de Jim Jarmusch. Alors moi, qui est un comédien, un réalisateur que j'aime beaucoup, que j'ai connu dans ma jeunesse quand j'étais cinéphile, il y a longtemps. Je me rappelle le très très beau film. Bon, c'est des films un petit peu... c'est pas Transformers, hein. C'est des films un petit peu... On pourrait dire que c'est des films un peu d'auteur, des films un peu de je dirais, d'art et SS. Et... Alors, quoi qu'il a été distingué il y a... dans les années 80-90 par... Je crois qu'il a reçu un prix de fou, en vrai. Mais voilà. Hein, on n'est pas sur des robots qui se mettent sur la gueule. C'est un peu plus... Voilà. Merci, Goyang. Et là, oui, un peu contemplatif. Lucas, tu as raison. Et donc, on a Le Parisien qui nous dit que c'est du très grand Jim Jarmusch. Voilà. Après avoir remporté le Lion d'Or à Venise en septembre, quand même, hein, ce magnifique triptyque oscille entre humour grinçant, émotion et tendresse, et il sort ce mercredi. Racine me dit le casting du film est incroyable, c'est vrai que c'est un beau casting. Voilà. Faites pas attention à Garou, là c'est autre chose ça. Hein. En dessous. Il y a une très belle voix d'ailleurs, très bel organe. Il n'y a que lui qui soit capable de nous scotcher ainsi dans notre fauteuil avec trois films en un, à première vue sans rapport les uns avec les autres. Trois films en un. Pourtant, au fil des récits, une petite musique d'unité et de continuité se fait entendre dans Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, en salle ce mercredi après avoir obtenu la récompense suprême, le Lion d'Or, mesdames et messieurs, à la Mostra de Venise en septembre dernier. Trois moyens métrages collés les uns aux autres, pas vraiment, car comme le dit le cinéaste, ils sont indissociables les uns les autres. J'aime bien cette idée de trois films en un finalement. Car comme le dit le cinéaste, ils sont indissociables les uns et constituent les trois mouvements d'une même pièce de musique. À l'arrivée, un ensemble singulier, enlevé et drôle, extrêmement émouvant du très grand Jarmusch. Ça donne envie de voir le trailer. Le premier chapitre débute dans le New Jersey alors qu'un frère et une sœur, campés par Adam Driver et Maïm Bialik, viennent rendre visite à leur père qu'ils voient peu, c'est le chanteur Tom Waits. Tom Waits. Incroyable. Fidèle du cinéaste qui interprète ce vieil homme bourru et lunaire, et on mesure vite à quel point il n'a plus grand-chose à voir avec ses enfants. La suite de l'histoire, faite de dialogues gênés ou surréalistes, viendra confirmer cette première impression avant une conclusion désarmante. C'est bien, le Parisien ne nous dit pas tout quand même. Le second segment, notre favori pour le Parisien, une romancière britannique, Charlotte Rampling, épatante, qui vit à Dublin, reçoit ses deux filles pour leur déjeuner annuel. Alors, deux filles qui sont assez différentes, je crois. Leur mère pas facile et maniaque, presque psychorigide, a autant calibré au millimètre près cette rencontre que son intérieur. Timothy, sa fille coincée, semble prendre du plaisir à se faire remonter les bretelles par sa maman, ce qui nous vaut une formidable performance à contre-emploi de Cate Blanchett. C'est vrai que le casting est fou. Qui s'équilibre à merveille avec celle de Vicky Krieps, lumineuse dans la peau de la sœur déjantée, Lilith. Génial Jarmusch qui réunit dans une même pièce étouffante trois grandes actrices au sommet de leur art. Et enfin, il y a le troisième film de ce film, troisième partie, qui se focalise sur les jumeaux Sky, India Moore et Billy, Lucas Abbott, chargés de ranger les affaires de leurs parents qui viennent de décéder à Paris. Le retrouvailles, les découvertes qu'ils vont faire dans l'appartement de leur géniteur vont leur montrer à quel point ils ne connaissaient pas tous deux de leurs parents et combien ceux-ci étaient en fait libres et hors normes. Si on passe par tous les états durant Father, Mother, Sister, Brother, c'est grâce aux magnifiques prestations de tous ces comédiens, mais aussi à la maestria, tant dans l'écriture que dans la réalisation de Jim Jarmusch, qui est un grand monsieur. Il faut voir par exemple comment il met en scène à coup de plans géométriques ultra précis le second segment pour refléter le caractère rigide de la mère. Au final, se dégage de l'ensemble une chronique douce amère des relations familiales, de leurs non-dits, de leurs secrets, de la communication impossible qui parfois y règne. Il est bien écrit cet article. Il est écrit par qui ? Renaud Barognan. Pour lier le tout, le cinéaste qui a tout au long de sa carrière accordé une dimension primordiale à la musique dans ses films a composé avec la chanteuse Annika une remarquable bande originale avec notamment une reprise du fabuleux Spooky de Dusty Springfield, version aérienne très épurée pour accompagner des paroles gentiment trash du pur Jarmusch. Bon, je sais pas si le trailer va vraiment nous dire beaucoup du film. Alors, trailer Mother, Father, Father, je l'ai. VOST peut-être. Let's go. Ous va aller voir ce film. Alors, je l'ai ou pas? VOST. 2.26. J'en ai une de 2.26 là. C'est bien ça ou pas? Celle-là. Je crois que c'est la bande-annonce officielle. Let's go. Toc. Un peu de son, un peu plus de son, toc. Amis qui nous écoutaient en podcast, des bisous déjà. Et vous avez pas l'image, vous avez le son.
What do you say we toast our tea to family relations?
Oh. It's wonderful to see you both. Very happy to see them on the one hand, but I just have to keep them from stirring things up.
Always been my favorite son.
Well, your only son.
As far as we know.
You're dead.
Shall I be mother?
You might as well start sometime.
May I ask if you still take anything?
No.
I don't. No heroin, no cocaine, no uppers, no downers, no goofballs.
No,
go ahead. Daddy, I just...
We seem to be accidentally color coordinated. How embarrassing.
Daddy, how's your health in general?
Any recent episodes?
You know, like at Mom's funeral?
Aren't you glad we had such unconventional parents?
Yeah, I mean, who wants to be a square and live a conventional life?
It's like they say, you can choose your friends and your lovers, but you can't choose your family.
Good to see you, son.
Mom looks good.
She doesn't look old, does she?
The world is really fragile, I think. Anything could happen. It's also random.
Can you toast with tea, though?
Really?
Wow. Wow! Oh, ils sont mignons. Il y a Diratek et Caresse dans le chat qui viennent de lâcher des « on s'ennuie ». Ah non, ça, pardon. Je ne pensais pas que le trailer pouvait donner à ce point envie. On sent la justesse du jeu. Le casting est fou. La BO a l'air incroyable. Franchement, Jarmusch, qui est un très grand du cinéma américain, avec un casting comme ça, je comprends maintenant pourquoi il y a autant d'articles sympas ce matin. Quoi. Alors, je vous avais dit, pardon, pour ceux qui ont écrit dans le chat, on s'ennuie, c'est pas les Transformers, quoi. Voilà, c'est un peu moins animé, quoi. Mais ça, en vrai, ça a l'air un très, très grand film. Deuxième film, deuxième coup de cœur de la presse ce matin, pour un film français, L'échappée belle des gamins de la cité. Après les pires, les réalisatrices Lise Akoka et Romane Guéret reviennent à leurs actrices fétiches, Fanta Kébé et Shirène Nataf, et qui font leur premier pas de monitrice de colo, donc on change complètement de sujet, dans une comédie pleine d'énergie et de tendresse. Fais gagner des abonnements UGC, s'il te plaît, merci ma vie. J'aimerais en Polenta Prout, magnifique pseudo. J'aimerais en vrai. J'en ai pas, mais j'aimerais en vrai. J'aimerais en avoir même pour moi. Voilà. Donc on a l'histoire de Geneba, 20 ans, qui part comme monitrice de colo dans la Drôme. C'est très joli la Drôme. Pour gagner de l'argent et s'échapper de sa vie de cité parisienne. Mais c'est aussi la culpabilité de laisser son petit frère à sa voisine en attendant le retour. Toujours repoussé de la maman qui est partie au bled. Et qui obtient une extrémiste de la directrice de la colonie le recrutement de sa meilleure amie. Gentiment immature, et qui promet de se montrer irréprochable. J'aime bien le début de cette histoire. Il y a Harry qui dit, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas non plus de robots géants dans ce film. Non. C'est un film sur la colo, ouais. Les réalisatrices connaissent leurs deux actrices principales, depuis qu'elles ont 11 ans, blablabla, donc c'est un petit peu l'histoire du film. Voilà, c'est pour ces petites sœurs, leur quasi alter ego à l'écran, qu'elles ont écrit ce film, Ma Frère. La faute est volontaire, bien sûr. Voilà, donc il y a d'autres moniteurs, bien sûr. Il y a les gamins qui sont incroyables. Le casting est incroyable. Voilà, des répliques qui font mouche. Une grande justesse qui détricote les clichés et un surnaturel désarmant. Bourré d'énergie, Ma Frère met en valeur chaque trajectoire grâce à une dimension chorale. Le film de colonie est un genre à part entière, écrit Lacroix, probablement trop peu exploité en France. Et ce deuxième long-métrage des réalisatrices, donc ce sont deux réalisatrices qui réalisent ensemble, déploie une micro-société avec ses règles, ses implicites, ses interdits, ses meneurs, ses timides, ses casse-pieds. L'humour très présent est traversé avec pudeur de rudes situations vécues par les enfants déjà cabossés par la vie. Hein, le portrait de groupe s'enrichit de récits d'apprentissage et d'une comédie sociale qui brasse générosité, tempérament et culture. La réalisation s'est aussi souligné la beauté des paysages de la Drôme, inondé de lumière estivale, il y a une très belle lumière là-bas, et de sa nature verdoyante qui contraste avec un Paris gris et bétonné. Ici, chacun est libre de devenir qui il est, de grandir loin des pressions, qu'il soit enfant ou adulte. Et le joli cet article. Qu'est-ce que donne la bande-annonce ? Bande-annonce. Ma frère. Bande-annonce officielle. Let's go. « Il y a Licorice qui me dit « J'ai vu la BA de ce film, allons voir le film sur le Kabuki la semaine dernière et ça avait l'air drôle et touchant à la fois. »
Ouais, je me rame, c'est comment ?
Vraiment belle, hein, ça me donne envie de palper les filles.
Palpe-moi, je te pète dessus.
C'est de folle.
Et toi aussi, tu t'en vas ? Ton frère, je le dépose chez les flics, foyer, famille d'accueil.
Elle va rentrer, ma mère, dis pas n'importe quoi.
Et à toutes sortes de loisirs, ils cherchent pas des gens ?
Va y avoir le séjour en colo.
T'as bien vendu ta copine.
Oh là là, elle t'aime.
C'est pas une promenade de santé, une colo.
Et les filles, elle veut sortir avec toi.
Là, mon pote, ça va être grand.
Je leur raconte des histoires, je leur fais rire et j'ai le permis, ça c'est le principal.
Les métros, les escalators, flemme, Tom, tu sais Sabrina.
La grammaire aussi un peu, flemme.
Attends, mais genre on va dormir là-dedans là ?
Maintenant dors s'il te plaît ma fille.
Je suis pas ta fille frère.
Bon vas-y.
Tu préfères voyager dans le futur ou dans le passé ?
Dans le passé tu peux réparer tes erreurs, tout ça.
Mais c'est pas à toi de porter ce poids-là, ma poulette.
Il ne faut jamais revenir, autant cacher les souvenirs, autant béni de son enfance. Car parmi tous les souvenirs, ceux de l'enfance sont les pires, ceux de l'enfance nous déchirent. Ma très chérie, oh ma
j'ai
mère,
j'ai quand même des moments d'espoir pour eux. Sinon, je sais pas, moi c'est invivable.
J'ai pas la force de m'expliquer, là je te le dis cash.
Parfois, je me dis peut-être que je peux changer un tout petit peu la vie d'un enfant. Vas-y, toi-même, tu sais, des fois, il y a des rencontres qui comptent.
Les Français, c'est des décontractés, wesh. À l'aise.
Enfin, j'aime bien, j'aime bien. La directrice de la colo, son visage ne m'était pas inconnu. Elle est connue, non ? Je vais dire une bêtise. C'est pas une chanteuse ? Ah oui, Amel Bent, non ? On est d'accord ? Oui, c'est ça, j'avais peur de dire une connerie encore, comme confondait Evoxia et Lydia tout à l'heure. C'est ça. Hein. Alors j'ai fait un Théo, je crois que c'est le premier Théo que je fais de tout ce stream après 2h26 pour mauvaise humeur de Lingelot qui s'était déjà tu t'étais déjà manifesté pour ta mauvaise humeur aujourd'hui. Ça dit wesh, c'est forcément bien. T'apprécies 100 secondes là pour mauvaise humeur. Ah, Lingelot, t'es d'accord ? Forcément. T'es d'accord. Il est pas mal le film, en vrai. Hein ? Tu as vu la bande-annonce de la nouvelle saison de Valo ? Ouais, on l'a regardé hier après-midi. Non, mais ça va, c'est juste... voilà, c'était... Mais non, c'est 600 secondes max, j'aurais même pas du Théo, mais voilà. Hein ? T'as une bague connectée ou t'as deux alliances ? J'ai deux alliances, caresses. Parce que j'ai deux épouses. Non, bien sûr. Non, par contre, j'en ai qu'une, évidemment, mais comme je suis très très amoureux, j'en ai deux. Voilà. Alliance ! Voilà. Pour demander à ma femme, c'est elle qui m'a offert les deux. Voilà. Quoi, Sugar ? Qu'est-ce que j'ai dit encore ? C'est pour ça qu'ils confondent les femmes. Arrêtez, bordel ! Sam est deux fois plus engagé que les autres. Voilà, merci Vlad. Exactement. Exactement. Les amis, c'était un plaisir. C'était un plaisir. Désolé au petit Théo, là, en vrai, mais... c'était un peu, hein. Macron aussi a deux alliances. Ah. Ah, ok. Copieur. Il y a Blurinat qui dit « Je bosse avec les mêmes gamins. Drôle et touchant. Trop chaud. » Bon, moi, deux beaux films, les amis. J'aurais presque dû vous garder ça pour la revue de presse des bonnes nouvelles de samedi. Parce que samedi, j'ai la revue de presse des bonnes nouvelles. Et pour l'instant, j'ai pas trop de bonnes nouvelles. J'en ai trouvé deux lundi. Est-ce que le monde, la planète, pourrait m'écouter quelques secondes et me balancer deux, trois bonnes nouvelles d'ici samedi ? Parce que là, pour l'instant, je suis un peu court. Pour l'instant, je vous fais un quart d'heure de revue de presse, ou 20 minutes samedi. Donc, mettez-moi les bonnes nouvelles. Faut dire que c'est, pour l'instant, cette semaine, c'est pas fou. Hein ? Si on trouve de bonnes nouvelles, on peut les envoyer. Oui, mais si c'est lié à un article, tu vois, déjà, parce que ça reste une revue de presse, bien sûr. Tu vois ? Skyrim, ça va revenir, Gauthier, bien sûr. Sam dit les bonnes nouvelles. On peut tomber les articles où, ben, je sais pas, en chuchotement sur Twitch, par exemple. Voilà, n'oubliez pas, hein, le verglas, pour éviter de glisser, ok, le dos légèrement incliné, attendez, je vous enlève le sommaire pour que vous voyez bien, le dos légèrement incliné, légèrement, comme ça, hein, gardez un peu d'allure quand même, les jambes écartées, les pieds en V, les jambes écartées pour l'équilibre, là vous êtes imbougeable, ça peut glisser, ça peut pousser, vous, ok, voilà. Écarté de combien? Oh ben, il faut bien 20 cm. Hein, voilà. Et pas les mains dans les poches. Et vous traînez les pieds. Voilà. Et là, il ne peut rien vous arriver. Ok? Oubliez le style. Quelques instants. Faites attention à vous. Faites attention à vos fesses, en vrai. Hein. Vous pouvez vous faire mal. Hein. Voilà. Merci pour ce matin. On se retrouve. Je voudrais vous rappeler que jeudi prochain... On a un jeudi après-midi prochain, la semaine prochaine. On a MVP exceptionnellement le jeudi et l'après-midi. Exceptionnel sur les métiers des médias, journalistes notamment, mais pas seulement. On sera en direct de Radio France pour un événement qui s'appelle Média en scène, qui existe depuis longtemps. Mais nous, on fera notre petite émission là-bas. Donc, on va se délocaliser. Voilà. Je vais vous dire, on a des invités de fou. On a Gaspard G qui sera avec nous. On aura Charlotte Vautier, qui est une créatrice de contenu, avec nous. On aura Clémence Lemestre, qui est une journaliste des Échos. On aura Paul Larouturou, qui est un journaliste que j'aime bien, que j'ai déjà reçu dans l'Hebdo Étienne. On aura Agnès Varamian, grand reporter, envoyé spécial, voilà, aussi avec nous. Et on parlera de plein de tous les métiers de l'information, de l'avenir de ce métier, de comment on le fait, de quelle est l'indépendance réelle des journalistes. Voilà, on sera ensemble pour 2h30 ensemble. Je pense que littéralement, on pourrait faire 12 heures d'émission. On ne répondrait pas à 10% de vos questions, mais soyez là, ce sera super intéressant. Et Lucas Delucky me dit, il y a encore des places, je crois, pour l'intéresser. Oui, c'est en public. Tu as raison, c'est en public. Est-ce que sur ce... Ouais, je sais pas. Et sur le site de Média en scène, vous pouvez vous inscrire pour assister, en fait, à... Il y a plein de rencontres. Sur place, la nôtre sera streamée, en fait. C'est à la Maison de la Radio à Paris. Tu sais, c'est le grand bâtiment rond, là. Incroyable. Et donc, il y a Média en scène. C'est un rendez-vous qui a lieu tous les ans, depuis quelques années déjà, auquel j'ai déjà participé. Il y a des tables rondes qui réfléchissent sur les médias, l'avenir des médias, la défiance des Français vis-à-vis des médias, sur les nouveaux défis en matière d'information. Et donc, nous, on fait un stream avec tous ces invités-là, de là-bas. Depuis le studio 104, je crois, un grand studio à Radio France. Voilà. C'est que la matinée qui est grand public, c'est-à-dire. Ah non, moi c'est en public, l'après-midi je suis en public, on m'a dit que c'était en public. Enfin, l'équipe m'a dit que c'était en public. Normalement, on pouvait être là. Tu peux mettre le lien. Je sais pas où il est, moi, programme. Marche pas leur site là. S'inscrire. Ah si, là on peut s'inscrire, on dirait. Tiens, moi je vous mets un lien. Tiens, je vous le mets. Ah, j'ai écrit 3 là. Ok, d'accord, super. Oh, le vieux. J'ai écrit 3 dans le chat, je sais pas ce que j'ai fait, bordel. Oh putain. Voilà, c'est ça. Là. Ça, c'est une petite page, elle est pas folle. Hein. Ils ont même pas mis les invités encore. Mais en haut à droite de cette page. Vous avez un onglet s'inscrire. Je pense que c'est là que tu t'inscris pour participer au truc. Voilà. Là, t'as intervenant, les différentes sessions, tu vois. Regarde, toutes les sessions, là. Les thématiques, la confiance des médias, des Français dans les médias, quelle stratégie face à la post-vérité, dans un paysage médiatique et politique polarisé, quelle responsabilité du service public, sous influence, comment les médias résistent à la guerre informationnelle, pluralisme, quelle définition en 2026. Vous voyez, ça rigole pas, hein. Comment parler politique dans un paysage fracturé? Quel impact en 2026 pour le journalisme d'investigation? Liberté de la presse contre liberté d'expression? Est-ce que ce sont deux droits fondamentaux en collision? Ah non, nous, on est en direct, nous. Et c'est la maison de la radio, Sugar. Je te promets, on est au studio 104. Là, tu vois, c'est écrit. Qu'est-ce qu'on a encore? Ma vie pro, live Twitch, regarde, studio 104, ha, 14h30, 16h30. ma vie pro live Twitch en public, travailler avec les médias en 2026 avec Samuel Etienne. Ça, c'est moi, ça. Streamer et journaliste. Ils ont oublié beau gosse. Merci Souffre-Jour. Merci Goyan. Merci Benjamin. Samuel Etienne enregistre en public son émission MVP Ma Vie Pro. Non, mais le site est hyper mal fait, je crois. 2 heures de live Twitch, 2h30, pour décrypter les nouveaux métiers, l'info, l'interroger de nombreux invités professionnels et répondre à vos questions. On leur a filé tous les invités, ils n'ont pas mis. Bon, c'est pas. Voilà. C'est pas le salon, ça n'a rien à voir. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ah oui! Quelqu'un me disait. Attends, quelqu'un me disait. Où est-ce que tu es, mon ami? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Est-ce que tu veux pas streamer l'expo des 200 ans du Figaro au Grand Palais? Eh bien, si. Je n'en ai pas parlé déjà? Avec Joe, on vous prépare un stream IRL au Grand Palais pour une grande exposition qui va se tenir pendant 2 jours. Je crois que toutes les places sont déjà prises. Et du coup, moi, je vous le fais vivre en live. Donc, on fera un stream IRL, mais genre, j'ai 8 invités, 8 journalistes. De rien, Angelo. C'était pour ton wesh. Les 600 secondes. 8 invités. Donc, du Figaro. Bon, le Figaro, c'est un des journaux que je lis le matin. Et donc, je ferai une petite balade de 2h30 au Grand Palais. Ce sera le vendredi 16 juin à 14h30, l'après-midi. On fera une revue de presse le matin et l'après-midi, bim, Grand Palais. Attendez, avec Joe, on a mis les petits plats dans les grands. On a Joe à la production, réalisation. J'ai dit juin? Sérieux, j'ai dit juin? J'ai vraiment dit juin? Janvier. Oh putain. C'est le manque de sommeil, c'est pas possible. Donc, janvier, il y aura Joe à la production et à la réalisation. Il y aura 2 cadreurs. Il y aura un cadreur un peu avec un ronin. Il y aura notre caméra, comme d'habitude, sur la petite poussette. Là. Deux caméras. Donc, 2 angles de vue. Il y aura un ingé son. Il y aura quelqu'un pour nous aider en plus à bouger tout ça. Donc, on est une équipe de 8 personnes. Mesdames et messieurs. Et on fera 2 heures de stream au Grand Palais, donc sur l'exposition sur les 200 ans du Figaro. Voilà. Ça nous permettra de parler de journalisme, bien sûr, de la ligne éditoriale du Figaro, l'histoire du Figaro, mais finalement, on sera très très proche des thématiques de médias en scène, en fait. C'est hyper intéressant. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez sur le journalisme à ces journalistes du Figaro. Et ce sera donc le vendredi 16 janvier à 14h30. C'est une super production. On est 8. C'est une super production. J'ai jamais mis autant de monde sur un stream IRL. Lucas, c'est Lucky. Putain, tu fais chier, en vrai. Tu fais rire. Donc, merci. Donc, ça bosse, hein. Oh, putain, Lucas, tu casses les couilles. Excusez-moi. Ça bosse, hein. Je te ferai la même à l'humanité. Hein. Espèce de gauchiste, toi. C'est dingue, ça. Vous savez qu'on lit tous les journaux ici. Hein. Tu le sais en plus, Lucas, bordel. Merci pour ce matin. Cet après-midi, rien, tiens. Pour Lucas m'a énervé. Pas de stream cet après-midi, tiens. Rien du tout. Je vais pas streamer avant longtemps. Trop énervé. Non, c'est pas vrai. J'ai un Teams à 14h. J'ai un Teams à 15h. J'ai un Teams à 16h. J'ai un Teams à 17h. J'ai un Teams à 18h. J'ai 5 réunions. Là, ici. Depuis mon siège. J'ai 1 heure pour aller chercher un sandwich et pour bosser sur tout ça, quoi. Oh putain! Donc, pas de stream cet après-midi, quoi. Putain, Lucas, tu fais chier. Voilà. Et donc, je fais ça. Après, je rentre à la maison. Et je vais sûrement pas streamer ce soir parce que demain, je fais un petit tournage. Demain après-midi autour de. Un petit projet secret. Attends, j'ai failli tout leak encore. Voilà. Donc, j'ai ça demain après-midi. Donc, je ne peux pas streamer demain après-midi. Ouais. Donc, il n'y a pas de stream ce soir. Parce qu'il faut que je sois en forme pour ça demain. Demain matin, revue de presse. Par contre, demain soir, je ferai un stream. C'est plutôt pour la télé, ouais, Linaco. C'est un petit truc, en vrai. J'ai... jeudi soir. Ouais, jeudi soir, on fera un stream. Ouais. Mais revue de presse demain, bien sûr. Des bisous. Et comme le dit Yue, n'oubliez pas, hein, en sortant aujourd'hui, le dos courbé, les mains en dehors de poche, les pieds en canard. Exactement. Qui est en live maintenant? Salut Barba Béret. Barba Béret, trop mignon. Alors, qui est en live? Ok. Tiens, quelqu'un m'a dit. Ok. Oui, c'est fini. Bah oui, c'est fini. Ah oui, bah faut que je prépare mes réunions, moi. Il y a Nico Goku qui dit c'est fini. Ah bah oui. Comment ça, Jean est en live? Quelqu'un me dit que Jean Massier est en live, je le vois pas. Jean est en live? Si Jean est en live, on va voir Jean. Il est en live, Jean? Let's go. Très bonne idée. L'ami Jean. Il vient de lancer? Ah bah très bonne idée. Let's go. Les amis, vous avez ça en replay sur Twitch si vous êtes abonné, la revue de presse qu'on vient de faire. Vous l'avez sur YouTube demain en replay. Et en podcast gratuitement à partir de 15-16 heures aujourd'hui, posté par Vincent sur toutes les plateformes de podcast audio. Vous avez le replay de cette revue de presse. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, hein, le dos courbé, les jambes écartées, les bras aussi, les pieds en V. Voilà, vous cassez pas la gueule. On va voir Jean. Donnez-lui les mêmes conseils d'ailleurs à Jean parce qu'il n'est pas de toute jeunesse, l'ami Jean. Et je vous dis à demain matin pour la revue de presse. Merci du soutien. Bisous. Et c'est tout. Ciao. Ça part dans combien là? Ah bah ça part.